Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Bidibi et Hermione Pouéban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Puisque la solution existe.
Excellent Père de gloire, nous venons te dire merci. Merci Père parce que tu ne varies pas. Tu es toujours le même, plein d'amour, plein de miséricorde, plein de bonté, plein de fidélité à notre endroit. Que te plaise d'accepter Seigneur ici nos louanges dans ta action de grâce. Notre gratitude infinie et inexprimable pour ce que tu es dans nos vies. Pour ce que tu as déjà fait dans nos vies et pour les glorieuses destinées que tu as encore pour nous Seigneur. Nous te disons infiniment merci Seigneur pour ce jour supplémentaire que nous avons. Cette grâce additionnelle que nous avons de nous retrouver en communion avec toi. Pour partager encore ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, qu'il te plaise par ta parole de transformer encore nos vies, Seigneur. Qu'il te plaise par ta parole d'opérer encore une vie, Seigneur. Qu'il te plaise encore par ta parole ce soir de donner la vie, d'impacter quelqu'un, de faire redécoller quelqu'un, de réveiller quelqu'un, de remettre quelqu'un sur le chemin de sa glorieuse destinée, Seigneur. Oui, Seigneur, que ta parole guérisse aujourd'hui un cœur, que ta parole transforme aujourd'hui une vie, que ta parole ouvre aujourd'hui des vues, des yeux, des oreilles. Père Tout-Puissant, réveille nos spirituels. Mon Seigneur, donne-nous la grâce d'être en meilleure communion avec toi, de mieux te connaître pour pouvoir mieux t'obéir, parce que nous savons, Seigneur, que t'obéir vaut mieux que tous les sacrifices. Merci, Seigneur, parce que comme toutes les fois, tu es là, omniprésent, omnipotent, omniscient. Tu nous parles, tu nous impactes comme nous n'avons jamais la grâce de le faire en dehors de ce lieu. Oui, Seigneur, merci pour ces moments de qualité, ces moments extraordinaires que tu vas nous donner encore. Nous savons que tu es là, nous savons que tu fais de grandes choses ce soir encore. Merci, Seigneur. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Ok, bonsoir. Ça doit faire, je crois, peut-être 2 semaines que je ne suis pas venu ici. Ça m'a l'air d'une éternité. Ça doit être la première fois depuis l'ouverture du club que je n'ai pas été ici pendant 2 semaines. Donc, j'ai l'impression que je suis venu ici il y a des années. Je suis bien content d'être venu. Dans tous les cas, je me suis permis de ne pas être au club que je chéris tant que cela pendant 2 semaines. C'était bien pour la bonne raison et vous verrez bien que plus rien ne sera comme avant. Nous avons pris, mon épouse et moi, le temps d'aller nous ressourcer, d'aller rencontrer Dieu, de l'écouter, de faire le point parce qu'il nous y appelait. Je crois qu'on n'a pas perdu notre temps parce qu'on a reçu beaucoup d'instructions de lui. La direction est beaucoup plus claire. Les choses à faire sont plus claires et l'ordre d'y aller est plus pressant. Donc, vous allez voir certainement le turbo dans les prochains jours parce que certaines personnes trouvaient qu'on allait déjà vite. Moi, je n'ai pas l'impression et ce n'est pas l'avis de Dieu. Quand nous étions à Ouaga, parce que nous étions en fait partis au Cisco. Le Cisco, c'est une conférence internationale des serviteurs de Dieu animée par Mamadou Karambiri à Ouaga. Et vous savez, quand vous atteignez un certain niveau spirituel, vous ne pouvez plus vous permettre d'aller écouter n'importe qui. Au risque de vous ennuyer. Lui, c'est quand même le pape francophone de la parole de Dieu dans le système protestant, il sait de quoi il parle. Et il a un peu un ministère qui a une histoire comme le nôtre. Parce que Karambiri est d'abord un patron d'entreprise, c'est un homme de marketing comme moi, il a été président de la chambre de commerce, président de beaucoup de sociétés, c'est un stratège, bref. C'est un peu comme moi, un intellectuel, un homme de management et de marketing qui est venu au Seigneur. Et Dieu ne faisant rien par hasard, Dieu a permis qu'il soit notre père spirituel et qu'il soit un peu celui qui nous parraine. Parce que personne dans la vie ne peut marcher indéfiniment sans pouvoir se référer à certains moments cruciaux à un père qui peut lui donner des conseils et peut répondre à certaines de ses questions. Donc, ça a été vraiment un moment de grande bénédiction pour nous. Dieu nous a beaucoup parlé. Et l'une des choses que Dieu nous a dites, évidemment, ce n'était pas dans ce cas-là, non seulement, c'était à toute l'Assemblée. Il y avait quand même au moins 5000 serviteurs de Dieu venus de 22 pays, américains, asiatiques, africains, européens, bref, de tous les continents. Et c'était tous des serviteurs de Dieu, donc des ministres de Dieu. Et à un moment, Dieu nous a tous parlé. En tout cas, moi, je me suis senti peut-être un peu plus interpellé que les autres, mais Dieu sait à qui il parlait. Dieu nous a fait dire exactement ceci. Il dit, vous avez tout reçu, je vous ai tout donné, qu'est-ce qu'il vous manque, qu'est-ce que vous attendez? Mon peuple se meurt, mon peuple périt, mon peuple est dans les chaînes, il est en train de souffrir. Mon cœur est attristé. Vous avez tout ce qu'il faut pour les délivrer. Vous avez tout ce qu'il faut pour leur apporter la lumière. Le temps presse. Ils sont trop nombreux à aller en enfer. Qu'est-ce que vous attendez? Ce n'était pas une intuition, ce n'était pas une conviction. C'était comme ça arrive parfois dans des grandes assemblées très spirituelles où le Saint-Esprit prend quelqu'un qui donne une parole en langue et que quelqu'un d'autre interprète immédiatement. Qu'est-ce que vous attendez pour faire ce pourquoi je vous ai appelé? Parce que vous avez déjà tout. Qu'est-ce que vous attendez? Et je crois que cette interpellation est valable pour nous qui étions là-bas. Je la prends très très personnellement à mon compte. Mais elle est valable plus généralement pour tous les chrétiens. Et comme par la grâce de Dieu, nous pourrons le voir dans les prochains jours, le club Jésus pour réussir, qui va fêter ses 3 ans en peut-être mai prochain, il est temps que nous passions à une autre vitesse. Et un certain nombre de choses vont changer au club Jésus pour réussir dans les prochains jours, conformément à ce que le Seigneur nous a inspiré. Comme je vous le disais déjà de manière prophétique depuis quelques semaines, il est temps que nous sortions de nos 4 murs, de notre confort, pour aller à l'assaut de Satan. Vous savez, dans un match de football, les entraîneurs et les équipes inexpérimentées, quand ils rencontrent un adversaire qui est supposé fort, il y a certains entraîneurs inexpérimentés qui pensent qu'ils peuvent choisir comme système de jeu la défense. C'est-à-dire, ils bétonnent, comme on dit, leur défense, ils mettent 4-5 défenseurs, ils mettent tout le reste des joueurs quasiment en milieu de terrain, et puis pour faire semblant de vouloir quand même marquer des buts, ils laissent un seul attaquant isolé quelque part là-bas. C'est-à-dire que leur stratégie, ce n'est pas de jouer le match pour le gagner, c'est de défendre au maximum pour que les 90 minutes passent sans qu'ils ne prennent de but. Parce qu'ils se disent que dans les circonstances, s'ils peuvent déjà faire un match nul, ce ne serait pas mal. Eh bien, l'expérience prouve qu'une équipe qui monte sur le terrain, avec un système de jeu, une mentalité et une ambition de verrouiller le match et ne pas prendre de but, prend toujours des buts et perd toujours. Il est impossible, sauf de très très rares cas, de défendre pendant 90 minutes sans finir par prendre un but. Parce que vous êtes acculé. L'ennemi vous pousse, vous pousse, vous pousse, vous pousse. À un moment, le jeu se joue dans votre surface de réparation. D'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que par la règle de la probabilité, vous finissez par prendre des buts et perdre le match. Et généralement, quand ils finissent par prendre un but, souvent qui arrive au dernier moment, ils se disent, bon, il n'y a plus rien à perdre, jouons. Mais ils n'étaient pas venus mentalement, stratégiquement, en termes de configuration de leur jeu pour marquer des buts. À ce moment, ils ne peuvent plus marquer des buts. C'est la débandade, c'est trop tard, le match est perdu. Et c'est pour cela qu'on dit au niveau militaire, au niveau stratégique, au niveau sportif, que la meilleure défense sera toujours l'attaque. La seule manière d'empêcher quelqu'un de vous acculer,
et de vous vaincre, c'est de l'attaquer pour qu'occuper à se défendre, il a moins de temps pour vous attaquer. C'est valable avec Satan. Comme je l'ai déjà dit, je le répète, le monde est un grand champ de bataille entre Satan et Dieu. Satan qui travaille à la perte de l'humanité, qui travaille à ce qu'un maximum de personnes le rejoignent en enfer. Parce que Satan, ne l'oubliez pas, était le numéro 2 de Dieu au ciel. Il était le chef des anges, il s'appelait Lucifer. Comme hélas beaucoup de numéro 2, il a cru un moment qu'il était assez grand pour prendre carrément la place de Dieu. Donc il a fait un coup d'état à Dieu. Le coup d'état n'a pas marché. Le tiers des anges l'ont suivi. Deux tiers des anges se sont opposés à lui, sont restés fidèles à Dieu. Et a eu un combat entre les deux qui naturellement ne pouvait être gagné que par le camp de Dieu. Et Satan a été précipité en enfer. C'est après cela que Dieu décide de créer des hommes, d'avoir des enfants pour son bon plaisir. Dieu avait des serviteurs. Dieu avait, comme Jésus l'a dit, des légions d'anges. Bien qu'on lui en ait pris les tiers, les deux tiers qui restent, c'est des milliers ou des millions d'anges que Dieu a. Et quand on voit la force, quasiment l'invincibilité d'un ange, quand quelqu'un en a des millions, omnipotent, omniprésent, quand même, il est bien armé. Et ce n'est pas des gens pour le servir qui manquent. Comme il le dit, il peut même susciter des oiseaux, des pierres pour le louer. Mais Dieu, malgré tout cela, a eu besoin d'avoir des enfants. Et quand on me demande pourquoi Dieu a eu des enfants, la même question, les gens le posent sous une autre forme, ils disent, mais les anges n'ont pas le pouvoir de pécher. Un ange ne peut pas choisir d'obéir ou de ne pas obéir à Dieu. Un ange est comme un robot de Dieu. C'est un serviteur de Dieu qui ne peut pas choisir de désobéir. Il ne peut qu'obéir, il n'a pas le choix. Et si les anges ne sont jamais infidèles à Dieu, c'est parce qu'ils sont programmés pour ne même pas pouvoir choisir entre obéissance et désobéissance. Ils sont programmés pour choisir. Nous sommes d'accord. Beaucoup de gens disent, mais pourquoi Dieu a décidé de donner aux hommes la liberté de choisir, de pouvoir lui désobéir, pour ensuite se plaindre de leur désobéissance? Et la réponse est toute simple. C'est la liberté de quelqu'un de vous choisir, de ne pas vous choisir, qui fait que quand il vous choisit, vous vous sentez honoré. Quand vous avez un esclave que vous avez acheté, il vous appartient. Il ne peut aller nulle part. Qu'il soit dans votre maison jusqu'à la fin de vos jours, c'est comme un ordinateur, c'est votre possession. Il ne peut pas marcher, il ne peut pas se déplacer. Il est votre propriété. Vous ne jouissez, vous l'utilisez. Évidemment, c'est utile. Mais votre ego, votre amour propre, vos sentiments ne sont en rien excités par la disponibilité, la fidélité de quelque chose qui ne peut pas être infidèle. Mais vous êtes honoré. Vous êtes flatté. Vous êtes séduit. Vous êtes heureux chaque fois que quelqu'un qui a la liberté d'être avec vous, de ne pas être avec vous, qui a plusieurs autres alternatives, choisit en dépit de tout cela de rester librement avec vous. C'est le choix d'être avec vous, pas quelqu'un qui pouvait ne pas le choisir, qui fait qu'on est heureux d'être aimé. C'est pour ça que les Blancs, parfois, ils se prennent des animaux domestiques, ils se prennent des chiens, ils se prennent tout ce qu'ils veulent, pour essayer de combler le vide d'un homme dans leur vie ou d'une femme dans leur vie. Mais ça ne vaudra jamais un homme parce que l'animal n'a pas le choix, il ne peut pas choisir de partir. Mais quand une personne qui vient, qui à tout moment peut rester dehors, revient vers vous tous les soirs, c'est cela l'amour. Vous pouvez avoir 100 employés qui sont aux ordres, qui font vos quatre volontés sans discuter. Vous serez toujours plus heureux d'un enfant désobéissant que de 100 employés parfaitement fidèles. Regardez des gens ultra puissants qui dirigent des pays, qui sont milliardaires, ils ont le nombre de femmes qu'ils veulent, ils ont tout ce qu'ils veulent dans le monde. Quand ils n'ont pas d'enfants, ils meurent malheureux. Et tous les jours, vous voyez qu'ils sont tristes. On dit, ah, mais tu as tout pour être malheureux. Quand tu fouilles, il n'a pas d'enfants. Regardez bien, nos enfants nous sont généralement beaucoup moins fidèles que nos collaborateurs, que nos serviteurs, que nos esclaves. Ils font généralement beaucoup moins de bêtises qu'eux. Mais dans quelle maison il y a un serviteur qui, parce qu'il est fidèle et travailleur bien, se retrouve plus aimé que l'enfant de la maison? Quand on dit c'est mon enfant, cela crée ou cela va avec un sentiment d'amour qu'aucun serviteur ne méritera jamais, même s'il se tue pour son maître. Et quand Dieu nous dit que nous sommes faits à son image, c'est dans les deux sens. Il suffit de regarder comment nous-mêmes, en tant que père ou en tant que mère, nous nous sentons. À quel point nous avons une faim d'avoir un enfant. À quel point des gens peuvent tout avoir et être malheureux. Être prêt à dépenser des milliards, courir de féticheur en féticheur. Être prêt à aller danser nuit dans un village la nuit. Bref, qu'est-ce qu'ils ne sont pas capables, qu'est-ce qu'elles ne sont pas capables de faire pour avoir un enfant? Qu'est-ce qui en eux les rend si esclaves que ça de l'envie d'avoir un enfant? C'est quelque chose qui pousse si irrésistiblement à avoir un enfant. Ce quelque chose-là nous vient de Dieu, nous vient de notre ressemblance à Dieu. Ce quelque chose-là, nous l'avons hérité de Dieu. Et c'est ce quelque chose en Dieu qui fait qu'alors qu'il avait les anges, il a eu envie et qu'il a pris le risque d'avoir des enfants tocards comme nous. Ce n'est pas parce qu'il ne savait pas qu'on allait désobéir. Vous savez bien que vos enfants vont vous désobéir. Vous savez qu'à l'adolescence, ils vont vous donner des soucis qui vont vous empêcher de dormir. Vous savez que certains vont lever les couteaux sur leurs parents. Vous savez que certains vendront leurs parents. Vous savez que certains voleront leurs parents. Mais quel béninois est prêt à mourir sans enfant parce que ses enfants vont lui donner des chagrins? Quoi qu'il ait, il y a une partie de la joie d'un homme qui ne peut venir que de l'amour de ses enfants pour lui et surtout de la chance qu'il a de pouvoir donner parfois sans condition de l'amour à ses enfants. Regardez comment on se sent heureux d'avoir des enfants pour lesquels on fait tout. On est content de les voir marcher, on est content de les voir grandir, on est content de les voir heureux, on est content de s'occuper d'eux. D'abord pour nous. Pour eux, c'est d'abord pour nous que nous voulons avoir des enfants. Vous devez comprendre cela pour comprendre qu'est-ce que nous représentons pour Dieu. Un homme n'a pour raison d'être que ce qu'un enfant a pour raison d'être par rapport à ses parents. Offrir à ses parents la joie d'avoir un enfant. D'abord. Et si ensuite, tu as un enfant obéissant qui réussit, qui fait la fierté de ses parents, tant mieux. C'est la cerise sur le gâteau. Mais même si c'était un enfant rebelle, comme on dit, il n'y a pas de tas d'ordures pour un enfant, le parent est quand même content d'avoir eu un enfant. Et jusqu'à sa mort, il ne désespère pas qu'un jour, son enfant se répande. Et l'enfant qui, après avoir été rebelle, se répand, finalement gagne encore plus l'amour des parents que l'enfant qui ne s'était jamais rebellé. Dieu a donc décidé d'avoir des enfants. Je ne sais pas si c'était pour se consoler de sa frustration avec Satan. Vous savez, regardez un peu dans nos maisons. Parce que moi, Dieu me parle souvent en me disant, la Bible dit quelque part que les choses matérielles sont l'ombre des choses à venir. Sont le reflet des choses à venir. Tout ce que Dieu a créé dans la troisième dimension est partiellement sur le modèle, même imparfait, de ce qui est dans la quatrième dimension. Quand vous comprenez les choses de la troisième dimension et que vous faites un peu de transposition, vous pouvez plus facilement avoir des révélations sur les choses de la quatrième dimension. C'est pour ça que, par exemple, quand la Bible nous parle de mariage, elle nous dit qu'il y a là un mystère. La relation entre une femme et un homme qui deviennent un, une fois qu'ils se sont mis ensemble, nous révèle beaucoup sur la relation entre Christ et l'Église. Il faut s'arrêter un jour et méditer tout ce que ça implique. On ne fait pas souvent cela. Mais en nous donnant des pistes comme ça, ou en nous disant, le royaume des cieux appartient à ceux qui ont le cœur comme un enfant. Il faut savoir s'arrêter pour se dire, mais un enfant fonctionne comment? Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir nous dire? Quand nous dit que le royaume des cieux, donc la puissance de Dieu, donc les miracles, donc les révélations, donc l'onction, donc la guérison, appartient à ceux qui ont le cœur comme un enfant. Si vous ne vous arrêtez pas pour regarder les enjeux des petites phrases de la Bible, et que vous prenez la Bible pour un livre d'histoire ou un livre de philosophie qui vous raconte le passé de la foi, au lieu de le comprendre comme un guide pratique, un mode opératoire au quotidien pour vivre votre relation avec Dieu, vous allez manquer beaucoup de révélations. Et donc, parlant de pourquoi peut-être Dieu, après avoir dû chasser Lucifer du ciel, a eu envie d'avoir des enfants, un jour, et ce n'est pas la première fois, Dieu a attiré mon attention sur quelque chose que font beaucoup les mamans. Quand les mamans ont des domestiques qui leur désobéissent, qui les volent, qui leur manquent de respect, et qu'elles les chassent, ou que parfois elles les injurient, Je les entends souvent dire quelque chose. Quand elles ont une fille, dans tous les cas, bientôt ma fille va grandir et ma propre fille ne me fera pas ça. C'est pas toujours vrai, soit dit en passant. Mais les mamans aiment bien un moment se consoler en se disant, c'est pas grave, tu fais la maligne, mais moi-même j'ai des filles. Bientôt, parce que j'aurai mes filles qui vont m'aimer, qui vont m'obéir, qui ne me feront pas du chagrin, je pourrai me passer de toi. Je vais te prouver que tu n'étais pas indispensable. Je ne sais pas parce que je n'étais pas là, si c'est ce qui est arrivé à Dieu, mais il est évident qu'après son chagrin avec Satan, Dieu a décidé de créer les hommes. Et c'est là que notre histoire commence. Je retourne là parce que si vous ne retournez pas là, vous ne comprendrez pas quel est le problème de Dieu avec le salut des âmes. Vous ne comprendrez pas pourquoi la seule chose qu'on puisse faire, parce que c'est de ça qu'il s'agit, pour réjouir le cœur de Dieu, c'est de sauver des âmes, c'est de sauver des gens, non seulement pour l'éternité, mais de les sauver aussi ici. Donc, je retourne en arrière pour que vous compreniez la genèse de l'enjeu. Dieu crée des hommes. Il leur crée un paradis, donc il leur donne quasiment tout ce qu'ils voulaient. Il crée toutes les conditions de leur bonheur. C'est des gens qui règnent, qui survolent quasiment toute la création. Écoutez, c'est à l'homme que Dieu a donné le pouvoir de nommer tout ce qu'il y a sur la terre, y compris les animaux. Dieu a créé les animaux et il a donné à l'homme le pouvoir de les nommer. C'est lui qui a nommé les arbres. Même la femme, regardez bien, Dieu n'a pas donné de nom à la femme. C'est Adam qui a donné un nom à sa femme. Dieu a donc donné les pleins pouvoirs. Il a dit, régnez, dominez, assujettissez, multipliez-vous. Ce n'est que des superlatifs. Dieu vous crée un paradis. Il a créé comme une colonie pour les hommes. Manifestez ma gloire là-bas. Amusez-vous. Je veux voir mes enfants heureux. Mais comme il connaît son conflit avec son adversaire, je ne dirais pas éternel, mais quasiment, qui est Satan, il dit, vous avez tout. Faites tout ce que vous voulez. Il y a même l'arbre de la vie là. Mangez-le, c'est-à-dire, comme vous dites au Bénin, on dit, enandoukbe. Ça veut dire quoi? Manger la vie. Dieu a dit à l'époque, manger la vie. Vous n'avez jamais remarqué hein, que notre fameux Doubela, là, Dieu l'avait dit à la création. Dieu a dit, voilà l'arbre de la vie. Mangez la vie. Et comme jusqu'aujourd'hui, ils ont choisi de tout manger sauf la vie. Dieu dit, mangez la vie et tout ce que vous voulez. Mais cet arbre-là, qui a été appelé clairement, ça n'a rien à voir avec le sexe. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour rien au monde, ne mangez de son fruit. Dieu vous donne tout. Il dit, jouissez de la vie. Si vous voulez parler en bon béninois, mangez la vie. Mangez l'éternité. Mais ne touchez pas de cet arbre-là. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la seule chose que Dieu nous a interdite. Ça n'a pas mis longtemps pour qu'à peine Dieu partit, Satan décide de venir et de tenter Adam et Ève, leur demandant justement de ne manger ou de manger cet arbre qui leur a été interdit. Et pour les convaincre, il les pousse à la rébellion, les faisant rêver que comme lui, ils pourront être aussi grands et plus grands que Dieu s'ils désobéissaient à Dieu. On dit que Ève a été victime, mais elle n'a pas été victime. Elle a été victime d'un esprit de rébellion implicite parce qu'elle s'est laissée convaincre à l'idée qu'en faisant ça, elle serait comme Dieu. Elle a voulu essayer d'être comme Dieu. C'est-à-dire de pouvoir se passer de Dieu. Et quand elle l'a fait, elle s'est rendue compte d'abord que c'était faux, ça ne lui a pas apporté ça. Ça l'a fait déchoir, ça leur a créé la mort, on va y revenir, et tous les problèmes que nous avons jusqu'aujourd'hui. Avant de revenir à l'explication de ce qu'elle a mangé, de tout le péché qu'il y a eu là, pour que vous compreniez ce qui s'est passé et à quel point cela crée un problème à Dieu, je donne souvent la métaphore que voici. Vous êtes président de la République. Un grand bandit qui crée des ravages dans la ville nargue tout le monde et personne n'arrive à l'arrêter. Vous venez, vous promettez de l'arrêter, de l'enfermer, et vous finissez par l'arrêter, par l'enfermer, vous le condamnez à la prison à vie. Et ce type-là donne une conférence de presse depuis la prison et il dit ceci. Dites au président de la République qu'il dit que je suis le pire qui est au monde. Au cas où vous ne le sauriez pas, il a 7 filles. Dites-lui que moi, de ma prison, je vais séduire ces 7 filles, que ces 7 filles me trouveront tellement bien qu'elles viendront coucher avec moi en prison et auront des enfants avec moi. Il sera mon beau-père, que ça lui plaise ou non. Parce que ces filles chéries vont tous m'aimer tellement qu'elles vont le laisser et venir rester avec moi dans la prison. Dites-lui que c'est le défi que je lui lance. Évidemment, tout le monde dit comment c'est impossible, comment les enfants du président peuvent aller voir un grand bandit comme ça en prison et le suivre. Et puis on est là, effectivement. Le président, sachant ça, dès que sa première fille a 15 ans, il dit « Attention, hein, je ne veux pas entendre dire que tu fréquentes le gars là. » Ça prend 6 mois, il découvre que sa fille est enceinte de lui. Quelques mois après, la deuxième est enceinte de lui. D'ailleurs, au-delà du péché, c'est la plus grande humiliation qu'on peut faire subir à ce président que de dire « Celui que tu as enfermé là, sous tes yeux, toi qui es Dieu là, il prend un à un tes enfants qui choisissent librement de s'acoquiner avec lui, de faire ce qu'il a fait pour lequel tu l'as puni, au lieu de faire ce que tu leur as demandé de faire alors qu'elle ne manque de rien. » Et ce que vous ne devez pas oublier, c'est quoi? Dans les attributs de Dieu, il y a la justice. Dieu est parfaitement juste. Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas se dédire. Dieu est lié par sa parole. Le jour où Dieu se contredit, il n'est plus Dieu. On l'aura pris en flagrant délit de péché. Si Dieu pêche, il n'est plus Dieu. Nous sommes d'accord. Donc, quand Dieu dit que si quelqu'un pêche, il mérite la mort, et que Satan fait pécher des filles de Dieu, Dieu est obligé de leur donner la mort, sinon il s'est dédié. C'est-à-dire que partant de cette caractéristique de Dieu qui est la perfection et la justice, Satan dit, je vais sous tes yeux, que ça te plaise ou non, faire à tes filles ce qui m'a condamné à la mort, et tu vas devoir, à moins de tomber dans le péché, les condamner toutes les unes après les autres à la mort. Et le pire, c'est qu'il est en train d'y arriver. Quand vous regardez le monde aujourd'hui, le monde est à la gloire de Satan, pas à la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous dit très clairement que le prince des ténèbres de ce monde-là, c'est Satan. Jésus ne règne pas encore sur la terre. Dieu ne règne pas encore sur la terre. Il y a des îlots, il y a des camps sur lesquels Dieu règne, essayant de reconquérir la terre. C'est un peu comme si les Américains mettent une base en Irak. Ils mettent des jazz là, des gens surarmés, des gens extraordinaires, des gens qui ont pouvoir que les autres n'ont pas. Ils sont plus forts que les autres. Mais n'empêche qu'ils sont dans des camps, ils ne maîtrisent pas l'Irak. C'est bien beau de s'enfermer dans les camps en Irak et de jouer les jazz. Mais il faut sortir des camps et conquérir l'Irak. Pourquoi je vous dis que l'Irak est sous domination américaine? Ça, là, ils n'y sont pas arrivés depuis. Une église est un camp américain en Irak. Une église, c'est un îlot de serviteurs de Dieu dans un monde contrôlé par Satan, avec pour vocation de reconquérir la terre au profit de Dieu. C'est pour ça que Dieu ne peut pas se contenter des chrétiens qui s'enferment dans leur dimanche tous les dimanches, qui s'enferment dans leur église tous les dimanches pour chanter le Alléluia. Ça ne sert à rien. C'est vrai que c'est bien de louer Dieu. C'est vrai que c'est bon d'adorer Dieu. Nous le faisons aussi. Mais ça, c'est à la limite la cuisine interne du chrétien pour se motiver, pour s'équiper, pour se galvaniser, pour être en communion avec Dieu, parce qu'il dit que vous êtes comme des branches d'un arbre. Si vous êtes coupé de l'arbre, les premiers jours, il y a toujours les feuilles blanches, les feuilles vertes, on pense que vous vivez. Au bout de quelques jours, la branche se dessèche. Chaque chrétien est une branche connectée à l'arbre qui est Jésus. Si on vous déconnecte de l'arbre, vous allez mourir tôt ou tard. Même si vous avez des fruits, ils vont mourir. Le chrétien doit donc pouvoir rester rattaché à l'arbre. La communion fraternelle, les cultes, les choses comme ça, vous permettent de rester rattaché au Seigneur parce que vous avez besoin de sa sève, vous avez besoin de sa force, vous avez besoin de sa vie pour porter des fruits. Mais une branche n'a pas pour vocation d'être rattachée à l'arbre. Elle doit être rattachée à l'arbre, mais avec pour vocation de porter des fruits. Quand le maître de la maison arrive, que sa cour est un peu encombrée, il veut monter l'arbre, il ne coupe jamais les branches sur lesquelles il y a des fruits. Ou bien, qui vient dans sa maison, voit son manguier, veut diminuer le feuillage et coupe les branches sur lesquelles il y a des mangues en train de grandir. Et pour ça, Jésus vous dit, l'habiter déjà à la racine des arbres. Si un arbre ne porte pas de fruits, on le coupe. Dieu n'appelle pas les chrétiens à se retrouver dans leurs églises. Où est-ce que vous avez vu dans la Bible, Jésus dit aux gens, retrouvez-vous le dimanche et adorez-moi. C'est écrit quelque part dans toute la Bible, quelle que soit la version, le commandement de Jésus c'est aller. C'est du français. Ça veut dire sortir et aller. Aller. En Judée, en Samarie. Et il cite, vous regardez, il part du plus proche. C'est comme s'il disait, va dans ton quartier, dans ta ville, dans ton département, dans ton pays, dans ton continent, et jusqu'aux extrémités de la terre. Les chrétiens ne sont que dans les quatre murs de leurs églises. Comme je dis, ils ont assigné Dieu en résidence surveillée dans leurs églises. Ils vont le voir là comme un prisonnier dimanche et le laissent à l'église pour aller faire leurs activités. Ne leur parlez surtout pas de Dieu le lundi, ils vont vous parler de laïcité. Ne leur parlez pas de Dieu le mardi, ils vont parler de laïcité. Dieu est prisonnier de l'église. Reste à l'église, quand on vient là-bas, on a affaire avec toi. Quand on sort de l'église, ne nous emmerde pas. Conclusion, regardez bien. Tous les jours de la semaine, on a des problèmes. Dimanche est le seul jour paisible. Regardez bien. Il y a rarement des problèmes dimanche. Il y a comme une atmosphère de paix, de sérénité tous les dimanches. Que tout le monde recherche et qui fait que tout le monde craint le lundi. Cette atmosphère n'est pas le fruit du hasard. C'est le seul jour où les gens disent à Dieu, merci parce que tu es là. Et quand Dieu est invité à être là, il se manifeste, il dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre, je rentre, il n'ouvre pas, je reste dehors. Dieu n'est pas un violeur, il ne veut pas violer votre cœur. Si vous le chassez de vos journées, il vous laisse aux journées au prince des ténèbres de ce monde. Et en regardant de lundi à samedi, on voit ce que le prince des ténèbres de ce monde est capable de faire d'une vie. Regardez comment vos dimanches sont. Essayez de mettre Dieu dans les autres jours et vous verrez comme moi, vous verrez comme ceux qui le font, que vos autres jours sont aussi paisibles qu'un dimanche. Mais nous avons sorti Dieu et nous subissons Satan parce que Adam et Ève ont bradé leur bail sur la terre à Satan. Dans le jardin d'Éden, le grand Satan a commis la plus grande humiliation qu'on pouvait faire à Dieu. Tes fameux enfants avec lesquels tu fais le malin là, voilà, ils se sont alliés à moi. Il a suffi que je leur demande de te défier, qu'ils se sont ralliés à moi. Tu leur as donné toute autorité sur la terre. Pour un fruit, ils m'ont vendu leur autorité. Maintenant, j'ai l'autorité, on fait quoi? Je vais peut-être t'expliquer le transfert de l'autorité. Parce qu'une fois encore, nous, en tant que chrétiens, nous avons été à l'école et puis nous faisons comme si on était des illettrés. Quand Jésus est parti tenter Satan dans le désert, il a dit à Jésus qu'il pouvait lui donner tous les royaumes de la terre. Il a précisé, parce qu'ils m'ont été donnés. Et c'est vrai que tous les royaumes de la terre ont été donnés à Satan par Adam. Comment? Quand vous lisez la Genèse, vous voyez les pouvoirs que Dieu avait donnés à l'homme sur la terre. Si on doit les comparer à la réalité aujourd'hui en termes de droit, c'est l'équivalent d'un bail. Dieu a donné à l'homme sur la terre un bail. C'est quoi un bail? C'est un contrat de location par lequel, pour une durée déterminée, généralement relativement longue, au niveau des hommes, c'est à peu près 100 ans au minimum, même si à l'âge plus petit, mais un vrai bail, comme on l'entend, c'est souvent 50 ans, 100 ans. Pendant les 50 ans, pendant les 100 ans, tu as tout pouvoir sur cette terre-là. En fait, la terre t'appartient pendant la durée du bail. Ce n'est pas pour toi, mais pendant la durée du bail, pendant le temps convenu, ça t'appartient. Même si moi je suis chrétien, que je te donne un bail sur mon terrain et que tu décides d'y mettre un cimetière musulman, je ne peux rien te faire tant que le bail n'est pas terminé. Parce que dès que j'ai signé le bail, jusqu'au temps convenu, le terrain t'appartient. Je ne peux pas te reprendre un bail. Tu peux décider de me revendre le bail, mais je ne peux pas te reprendre un bail. Jusqu'au temps convenu. Mais le bail étant un contrat, celui qui a reçu le bail peut vendre le bail. Je peux payer pour que ce bâtiment-là et son terrain m'appartiennent pour 100 ans. Et quand j'ai besoin d'argent, appeler Paul. Paul dit, je te propose 50 millions. Je signe un papier, je transfère mon bail à Paul. Que celui qui m'a vendu mon bail aime Paul ou pas, Paul a acheté légalement le bail chez moi. Il va le supporter jusqu'au temps convenu. C'est ça la loi. Et Dieu ne contredit pas la loi parce qu'il est Dieu. Cela veut dire que Dieu a donné à ses enfants un bail sur la terre. Ses enfants, un peu comme après Esau, pour un bol d'haricots, a vendu son droit d'aînesse. Adam et Ève ont vendu leur bail sur la terre pour la tentation de rivaliser avec Dieu. Satan a donc récupéré l'autorité, les titres de propriété de la régence sur la terre. Et quand Adam et Ève se sont rendus compte que c'était une erreur, c'était trop tard. Satan est fort, il a déjà acheté par usurpation et il règne. Dieu lui-même ne peut pas venir lui arracher ça sans être injuste. Or, Dieu est parfaitement juste. Si Jésus est venu mourir à la croix, on le verra tout à l'heure, ce n'est pas parce que Jésus, Dieu aime les scénarios qu'il avait envie de venir mourir. Il n'y avait aucune autre formule pour sauver l'humanité que de mourir à la croix à cause de ce que je vous explique là. L'homme a bradé son bail à Satan. Cela veut dire que toute autorité, tout le pouvoir que Dieu lui avait donné de faire tout ce qu'il veut sur la terre a été transféré à Satan. Et c'est pour ça que Satan fait du monde aujourd'hui ce qu'il veut, en toute légalité. Ce n'est peut-être pas bien, ce n'est peut-être pas éthique, mais c'est légal. La preuve, vous allez voir dans le Nouveau Testament, il y a un moment où Jésus était en train de chasser des esprits mauvais. Et les esprits mauvais lui ont dit, toi là, tu es le fils du Dieu très haut. Pourquoi viens-tu nous perturber avant le temps convenu? C'est écrit dans la Bible ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, parce que vous allez voir dans la Bible, il y a des fois, les gens disent, quand on veut nommer Jésus dans la Bible, des fois ils écrivent le fils de Dieu, ce qui est vrai. Mais il y a d'autres endroits, ils écrivent le fils de l'homme. Pourquoi? Pas par hasard. Il y a des choses que Jésus a fait qui sont légales pour un homme, mais qui ne sont pas légales pour Dieu. Parce que, d'ailleurs, la preuve, Jésus en parle après, il dit, Satan est rentré sur la terre par infraction. Moi, je suis rentré par la porte. Pour être citoyen d'un pays et avoir le droit de revendiquer des choses dans ce pays-là, il faut être né d'un père ou d'une mère de ce pays ou être né dans ce pays. On peut, comme un Libanais, aller acheter la nationalité béninoise. Ça, c'est rentré par infraction. C'est ce que Satan a fait. Mais normalement, pour avoir un passeport béninois, il faut être né au Bénin ou avoir un père ou une mère béninoise. D'accord? Et comme on le verra peut-être plus tard, Dieu a donné sur la terre les droits contenus dans le bail là étaient destinés à l'homme. Ce n'est pas pour rien qu'on dit en fond, mais ton. C'est le maître, c'est le père, c'est le chef absolu de la création. Sur la terre, l'homme n'est pas quelqu'un, c'est ben ton. Et Dieu n'est pas comme certains qui nomment des gens pour passer derrière eux. Quand il t'a fait ben ton, il ne vient pas sur ton territoire pour agir contre ton avis. Quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, même si tu es l'État, tu veux vacciner son enfant gratuitement, tu demandes l'autorisation du prêteur. Si tu prends un enfant dans une maison, que tu le vaccines gratuitement sans autorisation du prêteur, c'est illégal même si c'est bien. Et ce n'est pas Dieu qui ferait des choses illégales. Quand Dieu nomme quelqu'un prêteur, il respecte son autorité de prêteur et ne fait rien sans son consentement. Cela veut dire que pour combattre Satan sur la terre, il faut être un béton. Parce que c'est béton qui a le droit d'essayer de prendre possession du béton, de prendre possession de la terre. Jésus est Dieu. Mais Dieu ne peut pas venir combattre Satan sur la terre parce que ce serait illégal. Il a déjà donné le bail. Si Dieu veut combattre Satan sur la terre, il est obligé d'être un homme. Et c'est pour ça que Dieu s'est incarné pour pouvoir, en certaines choses, agir légalement comme un fils de l'homme. Quand il a chassé les esprits mauvais, les esprits lui ont dit, hey, tu veux nous blaguer? Nous, on sait que tu es Dieu. Dieu, tu n'as pas le droit, avant le temps qu'on veut, donc avant la fin du bail, de venir nous chasser. Nous sommes dans le bail. Mais Jésus a pu s'en sortir parce qu'il était là, non pas en tant que fils de Dieu, mais en tant que fils de l'homme. Vous allez voir quand vous prenez des choses comme par exemple Ézéchiel, qui à un certain moment s'est retrouvé face aux ossements desséchés. Il y a des ossements desséchés dans toutes nos vies. Dieu était là. Ézéchiel était là. Pourquoi Dieu n'a pas demandé aux ossements de reprendre vie? Pourquoi Dieu n'a pas suscité le souffle de vie dans les ossements alors que Dieu était là? Dieu dit, Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Ossements desséchés. Tu penses qu'ils peuvent prendre vie? Ézéchiel dit non. Il dit maintenant, moi je te dis, dis-leur de reprendre vie. Dieu, à côté d'un homme, voulant donner la vie, voulant réveiller des morts, n'a pas eu le choix pour être légal que de déléguer son autorité à un homme, parce que si lui le faisait, il n'est pas légal. C'est pour ça que Dieu nous dit souvent, invoquez-moi, je vous répondrai. Quelque part Dieu dit, ils ont péché, j'ai voulu les détruire, j'ai cherché un seul homme qui se tenait à la brèche, je n'en ai pas trouvé. On se dit, mais pourquoi il attend quelqu'un? Mais si on te viole, que tu ne portes pas plainte au tribunal, aucun magistrat n'a le droit de poursuivre et de condamner celui qui t'a violé. Tu dois invoquer le tribunal pour que le tribunal intervienne. Si tu es un pays, tu as un accord de protection avec la France, on t'attaque, tu n'appelles pas la France au secours, la France ne va pas réagir. Le fait d'avoir un accord de protection avec un pays n'empêche pas que tu sois obligé d'invoquer le pays pour qu'il se mette en mouvement. Si tu n'invoques pas le pays qui se met en mouvement militaire, on va dire ingérence militaire. Ou bien, mais c'est pareil avec Dieu. Si vous n'invoquez pas Dieu dans votre vie, vous êtes les bêtes de votre vie. Vous n'invoquez pas Dieu dans votre vie, il ne viendra pas. Il sait de quoi vous avez besoin. Mais il se tient à la porte. Il attend que vous lui ouvrez. Vous ne lui ouvrez pas votre vie. Vous passez votre temps à aller à l'église pour faire le cinéma. C'est votre problème. Dieu ne rentrera pas dans votre vie. Il attend que vous lui disiez, je suis bêtant. Avec mon autorité de bêtant, je te demande de rentrer dans mon coin. Pour que certains comprennent mieux ce que je suis en train de dire. Si vous ne comprenez pas ces mécanismes juridiques de notre relation avec Dieu, il y a des choses qu'on lit dans la Bible qui nous semblent être des rhétoriques ou des manières de parler, mais qui ne sont pas des manières de parler. Nous avons bradé notre autorité à Satan. Et Dieu ne pouvait la récupérer qu'en étant qualifié pour avoir le bail, en étant fils de l'homme. Nous avons contribué à humilier Dieu en montrant à Satan ou en aidant Satan à démontrer qu'il a plus d'autorité sur les enfants de Dieu que Dieu. Et le pire, c'est que Satan va finir en enfer. L'enfer n'est pas un mythe, c'est une réalité. Imaginez ce qu'il y a de pire sur la terre comme souffrance. Multipliez-le à l'infini et considérez que ça ne s'arrêtera jamais. Ça vous donnera une petite idée de l'enfer et encore pas une idée complète. Tout ce qu'il y a de pire, les barbaries, les génocides, les tortures, tout ce qu'il y a de pire sur la terre là, n'est qu'un reflet pâle, n'est qu'un vaccin de l'enfer. Vous devez les imaginer, les multiplier à l'infini et savoir qu'on ne peut pas dormir en enfer. On ne peut même pas mourir. Aller en enfer, c'est souffrir au maximum pour l'éternité. Et c'est ce qui va arriver à Satan, il le sait. Mais Satan dit en quelque sorte, tu veux m'envoyer en enfer, pas de problème. J'ai péché, tu m'envoies en enfer. Comme tu es Dieu et que les mêmes causes produisent les mêmes effets, si tes enfants pêchent, tu devrais les envoyer en enfer. Et Satan fait le pari que si Dieu voit trop de ses enfants en enfer, peut-être qu'il finira par dissoudre l'enfer comme seule solution pour éviter que ses enfants n'aillent en enfer. Satan court donc pour qu'un maximum d'enfants de Dieu aillent en enfer et que Dieu se dise, mais si tous mes enfants doivent aller en enfer, autant fermer l'enfer. Mais Dieu qui ne veut pas se repentir de ce qu'il a dit, qui ne veut pas perdre son plaisir à devoir punir Satan, dit, je vais faire tout ce qui est possible pour empêcher mes enfants d'y aller. Maintenant, ceux qui ne voudront pas saisir ma solution, après tout, on ne peut pas les empêcher d'aller en enfer. Ils iront en enfer parce que ce que j'ai dit, je l'ai dit. Et donc, Jésus nous dit, il y a urgence. Mettez-vous en mouvement. Je veux une armée pour reconquérir les âmes qui sont, comme je dis, sur le toboggan de l'enfer. La plupart des gens qui ne connaissent pas Dieu sont sur le toboggan de l'enfer. Réalisez ce que j'appelle toboggan. Ils ne sont pas en train de marcher vers l'enfer. Ils sont sur un toboggan où il faut un miracle pour qu'au milieu du toboggan les arrête. Ils sont sur le toboggan de l'enfer. Il n'y a pas 10% des gens qui sont sur le chemin du ciel quand vous regardez le monde aujourd'hui. Et quand on est sur le chemin de l'enfer, les choses à venir étant déjà l'ombre des choses actuelles, on le voit dans nos vies. La maladie, les soucis, l'hypertension, le diabète, les guerres, les frustrations, tout ce que nous voyons aujourd'hui ne sont que les signes visibles de ce que nous sommes sous le règne de Satan. Et que toute personne qui ne fait rien pour vaincre ça ici a déjà ici l'indice qu'il est sur le chemin de l'enfer. Ces choses-là ne sont pas de Dieu. Quand ces choses-là règnent dans votre vie, c'est que vous êtes sous le règne de Satan. Attention, ne confondez pas l'église avec foi. Jésus a dit, c'est écrit dans toute la Bible, qu'il y a plein de gens qui vont à l'église, qu'il y a plein de gens qui font des miracles, qu'il y a plein de gens qui auront passé leur vie à parler de Jésus, mais que ce jour-là leur dira, je ne vous connais pas. Ce n'est pas écrit dans la Bible? Vous croyez que c'est une manière de parler peut-être? Parce que Dieu n'a rien d'autre à faire que de faire des phrases pour vous amuser. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Il y a trop de gens qui vont à l'église alors qu'ils continuent d'être dans le règne de Satan. Et je fais une petite parenthèse pour vous l'expliquer. L'église n'est pas le ciel. L'église n'est pas le ciel. L'église n'est pas le royaume de Dieu. Dieu n'est pas dans un bâtiment. Dieu est esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est comme un vent. Nul ne sait d'où il vient et où il va. Si vous voulez à tout prix imaginer Dieu, ne l'imaginez pas comme un vieux qui est assis quelque part. Imaginez-le comme le vent. Et ça vous aide à comprendre certaines caractéristiques de Dieu. Il est en nous et il est avec nous. L'air est en moi, pas ma respiration, mais autour de moi. L'air est avec chacun de vous en même temps qu'il est avec moi. Ça ne pose aucun problème. L'air qui est ici est à Savalou, est à Parakou, à Natitingou, à Paris, en Chine. Il y a des endroits où c'est une douce brise. Il y a des endroits où c'est un vent d'Harmattan qui vous persécute. Il y a des endroits où c'est un typhon. D'autres endroits, c'est un ouragan. À un moment, c'est de la fumée. Parfois, c'est de la rosée. Parfois, c'est du brouillard. L'air prend différentes formes selon les contextes, différentes odeurs. Mais l'air n'a pas de début, n'a pas de fin. Il est partout à la fois. Il est en tout le monde à la fois. Et il est avec tout le monde à la fois. Et si j'arrivais vraiment à isoler cette pièce en évitant que de l'air y rentre, vous verriez bien qu'il n'y aura plus de vie. Nous serons tous morts. Ceux qui, si vous voulez à tout prix visualiser Dieu, ressemblent plus à Dieu sur la terre, c'est encore le vent, c'est encore l'air. D'ailleurs, avec Élie, Dieu dit, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des vents violents, il y a eu des feux. Mais Dieu n'était pas dedans. Il était dans un doux et subtil murmure. C'est ça qui était Dieu. Nous devons donc prendre le temps de nous rendre compte que ce n'est pas parce qu'on est né chrétien, quelle que soit son obédience, ce n'est pas parce qu'on est à l'église, ce n'est pas parce qu'on est pasteur, prophète, apôtre, bishop, je ne sais trop quoi, qu'on est sur le chemin du ciel. Jésus dit à un moment, plein de gens vont venir à mon nom, Bible à la main. Mais il y aura beaucoup de faux parmi eux. Comment les reconnaîtrez-vous? À leurs fruits. Quels sont les fruits de Dieu? Quand les gens ont dit à Jésus qui venait de Satan, quelle preuve il leur a donné? Il guérissait les malades. Il avait une parole qui apportait la vie. Il réveillait les morts. Il avait une sagesse. Il manifestait de l'amour. Il libérait les captifs. C'est ça les fruits du Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a rien de tout cela, il n'est en tout cas pas aux portes du paradis. Mais disons alléluia, comme il n'est pas mort, il a le temps d'y aller. Mais qu'il ne se raconte pas des histoires. Jésus dit, on reconnaît les miens à leurs fruits. Une source d'eau douce ne peut pas donner de l'eau amère. Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu et ne rien manifester de la puissance de Dieu. Je suis désolé. Un lion qui n'a pas de dents, qui ne peut pas manger. Une pétarde, ce n'est pas un lion. Et comme Dieu ne change pas, on ne me dira pas que c'est dans le passé que Dieu avait des enfants puissants. Dieu a changé entre temps. Alors pourquoi aujourd'hui, les enfants de Dieu ne sont plus capables d'être des Paul, d'être des Pierre, de faire des miracles, de toucher des gens qu'ils guérissent, de sauver des vies, d'avoir des révélations? Mais nous disons tous que nous sommes des enfants de Dieu. Et nous croyons que Dieu a tellement changé que tout ça c'est des histoires. On peut oublier ça et vivre. On ne peut pas oublier sa vie, Dieu n'a pas changé. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Et je vous dis donc, être à l'église, ce n'est pas être chrétien. Et je vais pour illustrer ça vous donner le cas de notre pays. Vous savez, le Bénin va devenir, je le prophétise, un des plus grands berceaux de la foi chrétienne dans le monde. Vous allez voir des choses extraordinaires. Une révolution chrétienne va partir du Bénin. Pourquoi? Parce que Dieu aime les ironies. Dieu aime les ironies. Vous voyez, c'est dans un jardin que Adam et Ève vont succomber à la tentation. C'est dans le jardin de Gethsémané que Jésus a vaincu la tentation pour nous sauver. C'est pas le fruit d'un arbre que l'homme a été condamné par le péché. C'est par le fruit d'un arbre que l'homme a été sauvé par la mort de Jésus. C'est par une femme que le péché est rentré dans le monde. C'est par une femme que le sauveur est rentré dans le monde. Et les ironies sont nombreuses de ce genre. Dieu aime l'ironie. Le plus grand persécuteur des chrétiens est devenu le plus grand apôtre et le plus grand persécuté. Le gars qui a renié Jésus 3 fois en une nuit est mort en confessant Jésus. Abraham, le lâche, qui dit que sa femme est sa sœur tellement il a peur, devient le père de la foi qui est cité comme le père, l'homme qui a le plus cru à Dieu. Vous prenez David, un gars qui a pris la femme de ses collaborateurs qui l'a tué. Dieu l'appelle en fin de compte l'homme selon son cœur. Dieu aime les ironies et il le dit, il prend les choses folles pour confondre les sages. Ça, c'est la spécialité de Dieu. Et le berceau du vaudou est forcément qualifié pour être le berceau d'un Jésus réel dans le monde. Et vous allez le voir. Si nous avons du mal à vivre notre foi, c'est parce que nous voulons vivre notre foi dans la 3e dimension, alors qu'elle relève de la 4e dimension. Quand Jésus parle du royaume des cieux qui est arrivé à vous, il ne parle pas d'une réalité physique. Il parle d'une réalité spirituelle. Quand vous regardez avec Élisée, à un moment quand ils étaient encerclés, son disciple avait peur parce qu'il voyait les chars ennemis. Quand Élisée a demandé à Dieu de lui ouvrir les yeux, il a vu qu'il y avait autour d'eux une armée encore plus impressionnante d'anges qui les protégeaient. Et c'est pour ça que Jésus dit à Thomas, tu as cru parce que tu as vu. Heureux ceux qui sont capables de croire ceux qui n'ont pas vu. Même dans le domaine de la 3e dimension, il y a la différence entre la vue et la vision. Quelqu'un qui attend qu'un terrain vaille 10 millions pour l'acheter n'aura peut-être jamais le terrain de 10 millions. Mais il y a des gens qui sentent que dans ce village où personne ne va aujourd'hui, il y a des terrains à 50 000. Dans 20 ans, ça vaudra 10 millions. Il a la vision. Il n'a pas la vue seulement. Il a la vision. La vision, c'est la capacité à voir, percevoir clairement ce qui ne se voit pas. Et d'en prendre possession par la foi. Si je veux acheter Ronaldo aujourd'hui, je n'en aurai jamais les moyens. Même le Bénin ne peut jamais l'acheter. Mais le Bénin peut prendre un petit enfant dans un quartier qui n'a l'air de rien, le nourrir, l'envoyer à l'école, ça va lui coûter quelques millions. Quand il deviendra Ronaldo et qu'il voudra 1 milliard, le Bénin aura eu un Ronaldo à 1 milliard parce qu'on aura eu la vision pour percevoir que cet enfant a un génie potentiel. Ceux qui sont capables de voir ce que personne ne voit sont toujours en avance sur ceux qui attendent de voir par leurs yeux pour agir. Et Dieu ne bénit que la vision. Quand il voulait bénir Abraham, lui donner toutes les nations, lui donner Israël, faire de lui le père quasiment de tous les croyants, la première chose que Dieu lui a dit, c'est quoi? Lève les yeux. Regarde aussi loin que tu peux. Tout ce que tu peux voir, je te le donnerai en possession. Cela veut dire que tout ce que Abraham n'a pas pu voir, il ne peut pas le recevoir. Si vous n'êtes pas capable de rêver grand, si vous n'êtes pas capable de voir au-delà des évidences de la 3e dimension, ce que Dieu peut faire pour vous, vous n'aurez de Dieu que ce que vous pouvez voir. La foi, c'est la capacité à voir les choses en termes de vision, parce qu'on connaît Dieu en méprisant la réalité. Mais si vous fiez à votre vue, si vous fiez à la 3e dimension, votre vision sera toujours très limitée. Et même quand Dieu vous bénira, vous n'aurez pas grand-chose. Un peu comme les Israélites dans le désert. Ils n'ont pas été capables de s'imaginer à Jéricho. Les deux qui ont été capables de s'imaginer à Jéricho sont entrés à Jéricho. Tout le reste n'est pas entré à Jéricho. Non pas parce que Dieu ne voulait pas les amener à Jéricho, mais parce qu'ils ont refusé. Ils ont refusé d'accepter la vision selon laquelle, eux-là, ils pouvaient être à Jéricho. Comment Dieu va faire, ce n'est pas votre problème. Il vous a fait vous-même. Vous ne pouvez pas expliquer juste aujourd'hui. Les messieurs ont tout expliqué. Ils ont décrit comment Dieu travaille. Aucun d'entre eux n'a pu commencer le travail ou le terminer. Quand, par exemple, la dernière fois, il y avait un témoignage d'une dame auquel on a coupé toutes ses trompes. Elle ne pouvait plus avoir des enfants. Elle a prié, les trompes ont repoussé. Je vois des médecins me dire, mais c'est impossible. Je dis, mais vous êtes bête. Pourquoi c'est impossible qu'une trompe repousse? Dieu parle d'un spermatozoïde invisible. Vous nous le montrez en biologie. Ça devient une masse de chair informe. Des trucs ridicules qui grandissent jusqu'à devenir un homme entier. C'est-à-dire que Dieu fait pousser tous les jours dans tous les hôpitaux des gens qui sont passés d'un spermatozoïde invisible à un homme entier. Il a fait pousser tous mes membres. Et vous estimez que celui qui a fait pousser toutes les trompes de cette fille-là et fait pousser les trompes de toutes les filles qui naissent n'est pas capable de faire repousser des trompes. Au nom de quoi c'est logique? Au nom de quoi? Si on n'est pas bête. Et c'est ça que Paul appelle les raisonnements idiots qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Satan nous donne des raisonnements qui nous paraissent brillants alors qu'ils sont ridicules. Écoutez, quand vous vous blessez là, même si vous ne mettez aucun médicament dedans, au bout de quelques jours, Dieu fait repousser votre chair. Un os se fracture. Pour peu qu'on ne le bouge pas trop, Dieu le colle. Vos cheveux, vous les coupez, ils repoussent tous les jours. Vous coupez vos ongles, ils repoussent tous les jours. Pourquoi vous décidez de croire que lui ne peut pas faire repousser une trompe s'il veut donner un enfant à un de ses enfants? Est-ce que ça ne devrait pas être plus facile de croire ça que de croire que c'est impossible? Mais Satan nous a convaincus que c'est impossible. Or, si vous n'êtes pas capable de croire que c'est possible, vous ne le verrez pas. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Satan nous empêche de croire. Et je voulais donc dire que dans la quatrième dimension, vous avez le camp de Satan et le camp de Dieu. C'est deux camps qui s'affrontent. Le camp de Satan, c'est Satan avec ses démons et avec ses serviteurs, les féticheurs, les charlatans, toutes ces personnes qui sont des serviteurs de Satan. C'est eux les bêtes que Satan utilise. Parce que Satan est comme Dieu un esprit. Il ne peut pas agir sur la terre sans le faire au travers des bêtes. Parce que comme en tant qu'esprit, lui aussi respecte le fait que c'est les bêtes qui restent sur la terre. En fait, le bêtes est la seule chose sur la terre qui a à la fois un esprit et une chair. Les animaux ont de la matière pour la troisième dimension, ils n'ont pas d'esprit pour la quatrième dimension. L'homme est la seule créature qui a à la fois de quoi règne dans la troisième dimension et un esprit pour interagir avec la quatrième dimension. Et c'est ça qui le qualifie pour être le maître de la troisième dimension et un candidat à la quatrième dimension. Donc, quand Satan veut agir, on va vous dire, elle est rentrée dans un oiseau. Aucun esprit ne peut faire du mal à quelqu'un sans s'incarner dans quelque chose de vivant. Dans un oiseau, dans un gecko, dans un cochon, dans tout ce que vous voulez. Toujours est-il qu'il faut que l'esprit rentre dans quelque chose qui est créé. Ou rentre dans un homme qui l'utilise. Nous avons donc les serviteurs de Satan avec les démons et Satan dans un camp. Dans le deuxième camp, vous avez Dieu. Vous avez les anges. Et vous avez les serviteurs de Dieu qui sont chaque chrétien qui accepte de mettre son esprit au service de l'armée de Dieu. Ces deux camps s'affrontent en permanence. Mais celui qui est dans la quatrième dimension, agit dans la quatrième dimension, connaît les lois de la quatrième dimension, se meut dans la quatrième dimension. Quand dans les villages, les féticheurs ou les charlatans ou les sorciers attaquent quelqu'un, quand vous allez voir un autre sorcier ou supposément guérisseur, qu'est-ce qu'il fait? Il vous dit, s'il veut être sincère, qu'il va aller dans la nuit demander l'autorisation à celui qui veut vous tuer. Il a dit qu'il va dans la quatrième dimension, il interagit avec l'esprit qui veut vous neutraliser et il négocie votre salut. Mais le problème, c'est que je ne connais personne. Si vous en connaissez, vous m'appelez. Je ne connais personne qui ait des problèmes, qui a commencé à aller chez les féticheurs et qui a fini aujourd'hui chez les féticheurs. Si vous connaissez quelqu'un qui a un problème parti chez les féticheurs, le problème était définitivement réglé. Donnez-moi son nom, je veux le rencontrer. Quand vous commencez à aller chez les féticheurs, vous y allez jusqu'au jour de votre mort. Qu'est-ce qu'ils font? Satan ne donne que des choses suivies de chagrin. Dieu dit, quand moi je donne quelque chose, la signature c'est que ce n'est pas suivi de chagrin. Tu es malade, tu vas voir un féticheur. Pour te prendre tes 50 000, parfois même c'est 1 000 francs, il va dire à l'autre sorcier, laisse-le 2 semaines. Tu rentres chez toi, tu vas bien, tu es content, mon féticheur, elle est très puissant. C'est pas grave. Ça ne dit pas un mois. Ça va revenir. Ça dit, je retourne le voir, elle était puissante, la dernière fois elle m'a guéri. Quand il finit de bouffer ce que tu lui as donné, et que l'alliance qui est passée se rompt, on te réattaque. Et finalement, vous allez voir les gars qui vont chez les féticheurs, ils y vont toute leur vie sans jamais avoir la paix. Sans jamais avoir la paix. Satan ne peut faire du bien à personne. Il est venu pour détruire, pour égorger, pour tuer. Il ne va jamais faire du bien à quelqu'un. Jésus a dit, est-ce que quelqu'un peut lutter contre son propre royaume? Si un féticheur vous fait du bien, cela voudrait dire que Satan est en train de détruire son œuvre de mal. Comment c'est possible? C'est pas possible. Mais, où je voulais en venir sur la quatrième dimension, pour vous expliquer qu'être à l'église, ce n'est rien d'important. Il faut comparer comment ça marche dans le règne satanique. Parce que vous devez savoir que quand quelqu'un démissionne de chez son patron, presque toujours il a tendance à reprendre le système de son patron en piraterie. Quand vous voyez par exemple un quotidien, quand il se divise, c'est matin, ça devient matinal. Matinal, ça devient matinée. Et puis même quand vous voyez leur fonctionnement, c'est même plus même tabac. Quand un parti politique se scinde en deux, chaque branche imite toujours un peu la source. Ils ont les mêmes méthodes, les mêmes réflexes. Le règne satanique est organisé selon le modèle du règne de Dieu. Vous allez voir que Dieu dit que tout a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et Dieu, c'est d'abord sa parole. Le bras opérationnel de Dieu, c'est la parole de Dieu. Je précise, la parole dont il s'agit ici, ce n'est pas du ho, c'est du bé. Quand on parle de la parole de Dieu, on ne parle pas du Holy Law de Dieu. On parle du B de Dieu. Quand on dit Igbenoumi, Nogbejinoumi, Segbenoumi, Ido Bekeni, Sagbe, ce n'est pas la même chose que le Ho. La parole de Dieu qui porte des fruits. La parole de Dieu qui a tout créé. Ce n'est pas le Holy Law de Mao. C'est le B Sista de Mao. C'est le B de Mao. Obéir à Dieu, c'est Nogbejinoumao. Ce n'est pas Sema aussi haut. Et justement, les chrétiens se comportent comme des gens qui veulent Sema aussi haut. Ils peuvent se comporter comme des gens qui veulent Nongbejinoumao. La parole. Il n'y a pas un féticheur qui travaille sans la parole. Les incantations, c'est la parole. Il n'y a pas un chrétien qui est censé travailler sans la parole. Dieu dit à Josué, médite la parole jour et nuit. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Mets en pratique tout ce qui est écrit. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Le chrétien doit balancer des incantations au même rythme, plus qu'un féticheur. Quand un féticheur te dit, pourquoi tu pleures? Réponds-lui. Réponds-lui, il est écrit que tu me combattras, mais tu ne vaincras pas. Il est écrit que toute âme forgée contre moi sera vaine. Il est écrit que si tu te causes de tout, c'est toi qui tomberas. Il est écrit que 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma droite, même si tu as tué 11 000. Moi, je ne serai pas atteint. Il est écrit que même si je marche dans le feu, je ne serai pas brûlé. Si je suis les eaux, je ne pourrai pas être noyé. Que celui qui me maudit a maudit. Que qui peut être contre moi si Dieu est avec moi? Quand tu dis ça à ces gars-là, moi j'ai expérimenté. Il fuit. Il dit non, t'as dit Roya, t'as pas Roya, je blaguais. Demandez-le. Quand vous leur répliquez, ils comprennent que ça, c'est pas un chrétien yo-yo. Celui-là, c'est un bombardier de la 4e dimension. Il vaut mieux le laisser de côté, parfait. Mais si dès qu'on voit un Géco, on commence à trembler, à appeler le pasteur. Pasteur, viens me sauver. Ça, c'est les gens que Satan utilise pour faire du michoui. C'est-à-dire que ces gens ne connaissent pas l'autorité. Donc, vous allez voir que dans le règne satanique, tout est basé sur la parole. Les chrétiens sont là, n'utilisent pas la parole. Ni pour la comprendre, ni pour l'appliquer, ni pour la parler. La parole. Il n'y a pas de cérémonie satanique sans eau et sans sang. Vous n'allez jamais voir ça. Quand on va au village, il y en a un signe, on va tuer un animal. On va... Faites toujours sacrifice à l'eau pour commencer et au sang. Quand Jésus est mort, qu'est-ce qui est sorti de ses côtes? De l'eau et du sang. Il a commencé son ministère par le baptême d'eau. Il a terminé par son sang qui a coulé en sacrifice pour tout vaincre. Il n'y a rien d'autre que l'eau et le sang pour avoir de la puissance. Satan le sait. Ce n'est pas aux chrétiens de le mépriser. Quand vous allez dans le règne satanique, tout féticheur sait que quand tu as un petit problème, on te demande d'égorger un moineau. Son sang suffit. Si le problème est compliqué, il faut du sang plus puissant. On va te demander un coq. Ou un coq blanc. Après, quand ça monte, on va aller au mouton, on va aller au bœuf. Plus l'animal est grand, plus le sang est puissant. Plus l'animal est pur et vierge, plus le sang est puissant. Quand ils ont fini, tous les animaux vont demander d'amener un homme. Si les hommes sont dépassés, ils vont demander d'amener une vierge. Quand c'est à toi, ils vont dire qu'il y a une vierge. Il y a des règles, il y a de la science. C'est de la loi la puissance. Si tu vas voir un féticheur, tu lui dis qu'un de tes ennemis a tué un bœuf pour t'éliminer, et que tu te présentes un mouton, il va rire. Quand on a tué un bœuf pour t'éliminer, pour t'en sortir, il faut tuer ou beaucoup de bœufs ou un animal plus puissant qu'un bœuf. Ou bien. D'accord? Même dans l'Ancien Testament, les Juifs passaient tout le temps à tuer des animaux pour effacer leur péché. Mais le péché revenait. Pourquoi Dieu a dû aller à la croix, soit dit en passant? Jésus dit, je suis venu pour le problème une fois pour toutes. La fin des fins doit arriver dans le film. La seule manière de faire en sorte que le sacrifice soit le dernier, d'après ce que je vais vous expliquer, c'est de faire un sacrifice qui ne peut pas être battu parce que rien ne peut être plus grand que ce sacrifice-là. On devait trouver l'animal ou l'être vivant tellement grand que personne ne peut trouver plus grand que lui à sacrifier. Dites-moi pas à Dieu lui-même, qu'est-ce que vous voulez sacrifier sur la terre pour arriver à ce résultat-là? Si c'est 1000 hommes, Satan va sacrifier 2000? Ou bien? Jésus était obligé de passer à la croix parce qu'à part Dieu lui-même, tout sacrifice pouvait être vaincu. Un chrétien qui va voir un féticheur qui égorge un poulet pour lui, c'est donc, excusez-moi, un imbécile qui va essayer de se sauver par un bœuf, par un coq, quand Dieu a déjà été immolé pour lui. Déjà, si on a même tué un mouton, tu amènes coq, le féticheur va te dire, tu es un imbécile. Mais quand on a tué Dieu et tu viens demander coq, que c'est sérieux. Il y a de ceux pour qui Dieu est mort et d'oser présenter un moineau, un coq, un mouton, un poulet ou un bœuf ou un crâne d'un homme pécheur alors que Dieu parfait est déjà allé à la croix pour vous. Si les blancs ne peuvent pas comprendre, le béninois est censé comprendre ça là de la parole de Dieu. Parce qu'il sait de quoi je parle. Quand vous devez amener vos animaux là, ils vous disent quoi? Mets la main dessus. Dis tes péchés. Et on va le tuer bien. C'est pareil. Jésus a été chargé de nos péchés avant d'être crucifié. On prend Jésus de Barnabas là. Comme Pavel s'appelait aussi Jésus, au cas où vous n'aurez pas remarqué. Il était le plus grand pécheur qu'on puisse trouver. Il est coupable. Le peuple décide que subitement il est innocent et que c'est Jésus qui est coupable. On a transposé tous les péchés de Barnabas et de l'humanité sur Jésus. Et on l'a immolé. Toi qui vas transposer tes quelques problèmes sur un poulet, et tu l'immoles. Tu es en train de jouer à la comédie. Je vais plus loin. Il ne faut pas vous fâcher, hein. Il y a un cambrier qui dit que la vérité ouvre les yeux, mais ça ne les casse pas. Je crois que ce n'est pas faux. Ça sauve. Vous découvrez la vérité vous affranchira. Moi, franchement, je ne veux plus blaguer. Dieu m'a dit, Edgar, tu as tout demandé, tu as tout eu. Mon peuple meurt, qu'est-ce que tu attends? Il ne va pas me demander le sang de quelqu'un. Donc, moi, je vais dire ce que je sais. Quand ils prennent leurs animaux idiots là, vous imposez les mains, vous mettez vos problèmes. Quand ils tuent l'animal là, d'accord? Ils vous demandent d'aller jeter ça où? Il ne faut pas avoir peur. Même si vous n'avez jamais fait ça ou bien. D'accord. Vous allez jeter ça au carrefour. Vous allez jeter ça sur un tas d'ordures. Le tas d'ordures. Regardez, allez demander le sang sur vos potas. C'est le lieu de la malédiction. C'est le tas d'ordures. C'est le lieu qui accueille ce qui est maudit. Jésus a été crucifié sur un tas d'ordures. Et quelle différence y a-t-il entre un carrefour et une croix? Le carrefour n'est-il pas une croix au sol? Quand je vous dis que Satan ne fait que du bailleur de Dieu, vous ne voulez pas me croire. Donc vous allez moller des petits animaux idiots, vous allez mettre une croix au sol, parce que Satan veut vous empêcher de réaliser que Dieu lui-même a déjà été sur la croix pour vous. Est-ce que c'est sérieux d'aller mettre un pauvre coq sur une croix? Et tous nos carrefours sont pleins de choses comme ça. Quand Dieu a fini avec ça déjà. Et c'est là que je te dis, vous avez des yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. Et un enfant vous dira, mais quelqu'un est beau, c'est la même chose. Et les féticheurs vous diront, on périt faute de connaissance. Je veux dire par là que quand vous regardez le mode opératoire de Satan, vous comprenez en quoi le mode opératoire de Dieu est vrai, puissant et doit être rigoureusement respecté. Parce que, pourquoi ces certains féticheurs arrivent même à tuer des chrétiens? Pour une raison simple. Dans la vie, il y a des hiérarchies, il y a des pouvoirs qui se rencontrent. Si le directeur général de la première salle prend une décision qui ne me plaît pas, je ne peux rien à moins d'obtenir que le ministre de l'Intérieur prenne une décision contraire. Donc, le directeur de la police peut me neutraliser si je ne suis pas capable d'activer plus grand que lui. Je veux dire quoi par là? Une chose est d'avoir un pouvoir supérieur aux autres, une autre chose est de l'activer. Si je suis le frère du ministre de l'Intérieur, qu'un policier m'arrête et que je ne pense même pas appeler le ministre de l'Intérieur, on va m'enfermer comme tout le monde. Pas parce que je ne suis pas capable d'être plus fort que le policier, mais si je n'ai pas activé ce que j'ai de plus que lui, il va m'écraser. En caricature, les féticheurs confrontent des gens qui ont un pistolet. Ils savent utiliser parce que ce n'est pas compliqué. Tandis que les chrétiens ont la bombe atomique, mais ne savent pas la manipuler, ils n'ont pas le code. Ça ne sert à rien d'être une puissance nucléaire quand votre président n'a pas le code et que c'est pareil qui a le code. Quelqu'un qui a quelques kalachnikovs va faire un coup d'état, ça ne posera aucun problème. On dit, mais c'est une puissance nucléaire. Comment on a pu le faire un coup d'état avec des kalachnikovs? Ils ont une puissance nucléaire. Est-ce que celui qui est là, là, c'est utiliser l'arme nucléaire? Un chrétien qui souffre, un chrétien qui est malmené par Satan, un chrétien qu'on ensorcelle, un chrétien qu'un sorcier bouffe. J'ai même entendu qu'il y a des pasteurs que des sorciers bouffent. Il y a des prêtres que les sorciers bouffent. Parce que c'est normal ça là. Que Satan bouffe un enfant de Dieu. Ce n'est possible que si celui-là ne connaît pas les lois, ne connaît pas les déclencheurs de la puissance de Dieu qui est en lui. Et nous devons les connaître. En venant à l'histoire de l'église, regardez quand les gens veulent se donner, quand ils veulent prendre, non, sauf vos doux, ils font comme ça, ils disent non. Quand ils veulent prendre un fétiche, un démon dans leur maison, les noms, les kénésies, les trucs comme ça qu'ils veulent prendre là. D'accord? Et papa, c'est ça, non? Quand les gens mettent ça dans leur maison, on met sous le lit, ça doit nous protéger, on fait ça pour nos enfants, et puis on va chercher des trucs diaboliques comme ça là. Quand ils vont chercher ces esprits, ces fétiches supposément puissants. Suivez bien, demandez-leur comment ça se passe. Il y a toujours un processus en deux phases. La première phase, c'est qu'on vous amène un objet. Ça peut être une calebasse, ça peut être un truc en fer, ça peut être un morceau de bois, ça peut être une statue, bref. On vous amène quelque chose qui est fabriqué en terre ou en une matière humaine ou de la troisième dimension. Et quand on vous le donne, vous pouvez même jouer avec, on dépose là, on t'a amené juste les ustensiles de la cérémonie. Ce qu'on t'a amené là n'est pas encore le pouvoir. Ça devient le pouvoir le jour où on fait la cérémonie pour activer ça. On est d'accord? On peut t'amener une mode de terre qui a été faite, c'est censé être fétiche, c'est dans une calebasse. Mais juste là, il n'y a rien, on te dit, va fabriquer ça et amène. On va faire la cérémonie pour te donner l'esprit. C'est lors de la cérémonie que tu reçois l'esprit. Il n'y a pas l'esprit avant la cérémonie. D'accord? De la même manière que cet objet qu'après va devenir le fétiche n'est en rien dangereux ou efficace. Tant qu'il n'y a pas la cérémonie pour l'activer, de même le fait de rentrer à l'église ne veut rien dire si vous n'êtes pas activé. Ce n'est que la partie charnelle de votre connexion à Dieu. Un chapelet n'a jamais sauvé personne. Une médaille miraculeuse n'a jamais sauvé personne. Une croix n'a jamais sauvé personne. Un talisman n'a jamais sauvé personne. À moins d'avoir affaire à des gens qui sont des bébés spirituels. Mais si vous rencontrez un garçon spirituel sur votre chemin, ça là c'est des jouets. Dieu dit, je ne suis pas fait dans ce qui est fait de main d'homme. Pour être sauvé, il faut être sauvé par quelque chose de plus grand que soi. On ne peut pas fabriquer son sauveur. Comment un homme peut fabriquer quelque chose qui va le sauver? Sois sérieux. Ce que tu fabriques là est plus petit que toi. Comment ce que tu as fabriqué? Tu es tellement plus grand que la chose, c'est toi qui as donné l'essence pour te sauver. C'est sérieux ce que nous faisons. Conclusion, les gens sont tous les jours fétichés, ils sont tous les jours malheureux. C'est ce qui t'a fabriqué qui peut te sauver. Celui qui peut dépanner un ordinateur, c'est celui qui a fabriqué un ordinateur. Tu ne peux pas fabriquer quelque chose qui va te sauver. Bien. Ou bien. Mais tout ce que les gens utilisent là, c'est eux qui ont fabriqué ça, non? Ou bien. Comment ce que quelqu'un a fabriqué peut le sauver? Jusque-là, ces objets-là ne font rien. On est d'accord. Viens maintenant à la cérémonie pour les activer. Pour les activer, ils ne font rien de bizarre. Ils font deux choses. Ils vont te dire que pour que ce fétiche commence à agir, il faut que tu aies deux choses. Un, Anaïs, sous ton lait. Deux, Anaïs, décide ça ton lait. C'est quoi sous ton lait? On va te donner ces lois, ces interdits. Ah, tu es prêtresse de tel fétiche, donc toi, tu ne porteras pas d'habit. Les vendredis, tu porteras chemise rouge. Les mardis, tu vas être nu. Quand tu te réveilles le matin, il faut te réveiller sur le pied gauche, tourner dans ta chambre pendant 10 minutes, mettre la tête par terre, réveille-toi à 2h du matin, faire la communion dans ta chambre en disant 1000 fois. Ouais, il y a des bêtises comme ça. On est d'accord? Si tu manges haricots, ton fétiche, j'aime pas ça. Ou bien, ils vont vous donner les lois du fétiche. Ceux qui l'aiment, ceux qui n'aiment pas. Dieu dit dans Deutéronome 8, voilà ma parole. Si vous obéissez, je vous bénirai. Vous n'obéissez pas, je vous maudirai. C'est ce que Moïse nous a dit. La loi. Et ils disent aux féticheurs, ils disent à celui qui a pris le fétiche, si tu ne lui donnes pas son mouton à Noël, il va se tenir contre toi, il va bouffer ses propres enfants. Il y a beaucoup de fétiches, il y a des gens qui m'ont dit que c'est son propre fétiche qu'il a bouffé parce qu'il n'a pas fait la cérémonie ou bien. Ah. Dieu ne vous bouffera pas, mais il vous lâchera si vous n'obéissez pas à cette loi. Pour dire qu'on a l'esprit de Dieu, il faut commencer par accepter. Ce n'est pas pour ça que ça s'appelle la loi. Sous ton lait. L'ancienne alliance, l'ancienne loi, la nouvelle alliance, la nouvelle loi. C'est sur la loi qu'il y a un contrat. Tu ne peux pas dire que j'ai un contrat avec les États-Unis pour me protéger hors d'un contrat. Il y a un contrat où il y a ce qu'ils font, ce que je fais. Si je n'ai pas un contrat avec quelqu'un, je ne respecte aucune clause du contrat. Je n'ai pas de droit, je n'ai pas de devoir. Je ne peux pas dire que je suis protégé. Il y a des chrétiens qui vont à l'église comme au cinéma. Ils ne connaissent rien de Dieu. Ils ne connaissent aucune loi de Dieu. Ils ne veulent pas y obéir. Mais ils disent que quand ils vont à l'église, Dieu les protège. pas parce que tu vois tous les autres États-Unis, si tu appelles Yaïboni, que si tu as un problème au Bénin, les États-Unis vont défendre le Bénin. Je suis désolé. Ou bien, il y a plein de gens qui vont aux États-Unis. Les États-Unis vont pas envoyer leur armée pour protéger chacun d'entre eux. Les États-Unis vont envoyer leur armée pour protéger ceux qui, quand ils sont partis aux États-Unis, ont passé un contrat avec les États-Unis et qui ont honoré leur part du contrat. Si vous n'avez pas de contrat avec Dieu, arrêtez d'attendre Dieu. Avoir un contrat avec Dieu, c'est accepter la parole de Dieu comme vraie, la méditer pour la comprendre, pour l'appliquer, l'utiliser. Accepter ses sons, ses lois. C'est la première chose qui active le fétiche. C'est la première chose qui active votre vie spirituelle. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas ça. Il y a même des gens qui n'ont jamais ouvert de Bible dans leur vie, alors qu'ils sont des chrétiens. Vous avez ça? Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais ouvert la Bible dans leur vie. C'est vrai ou c'est faux? Vrai ou faux? Oui. Et quand ils l'ont ouvert là, ils la lisent à l'envers. J'ai été une fois à Port-Novo, des pasteurs m'ont dit que Dieu a dit que heureux les pauvres. J'ai dit, bon Dieu, il n'a jamais dit ça, c'est faux. Sortez la Bible, on va lire. En attendant qu'il y ait la Bible en anglais, on a quand même pris la Bible en français. C'était écrit, heureux les pauvres de cœur. Ça ne veut pas dire pauvre, ça veut dire quelqu'un de humble. Un pauvre de cœur n'est pas un pauvre. Et pendant longtemps, ces pasteurs ont fait à leurs fidèles qu'il faut être pauvre, il faut être dans la pauvreté, comme certains qui boivent dans les calices en or, en nous disant qu'ils ont fait un vœu de pauvreté. Dieu ne nous appelle pas à la pauvreté. Lisez Ecclésiastes. Dieu dit que si quelqu'un joue de sa mort est tellement pauvre qu'il n'a pas l'argent de son cercueil, un avorton vaut mieux que lui. Ecclésiastes. Celui qui le joue de sa mort, un cercueil c'est peut-être 50 000 aujourd'hui. Et on peut bruit tout le temps. Si je te prends tout de suite, je dis donne-moi 50 000, tu n'as pas. Dieu dit qu'un enfant qui est mort dans le ventre de sa mère est meilleur que toi. C'est pas moi, c'est dans la Bible. Lisez Deutéronome 28 au chapitre 15. Vous verrez que Dieu cite les malédictions. Ce qu'on appelle sous-développement là, c'est décrit dans la Bible, Deutéronome 28, chapitre 15, comme étant la conséquence de la désobéissance à la parole de Dieu. Dieu dit, vous ne voulez pas ouvrir les yeux pour voir alors que vous en avez. Vous ne voulez pas ouvrir les oreilles pour comprendre alors que vous en avez. Vous ne voulez pas m'obéir parce que vous savez que si je vous m'obéissez, je vais vous bénir. Satan vous empêche de connaître la parole de Dieu et dit obéir parce qu'il sait que si vous le faites, vous serez bénis. On ne peut pas avoir de chrétiens sans connaissance de la parole de Dieu. Pas plus qu'on ne peut pas avoir de féticheurs qui ne connaissent pas la loi. Donc, il y a la loi qui est la première chose, et la deuxième chose, la parole. Imaginez un féticheur, par exemple, ou bien un gars, un chauffeur, comme ils font là, il est parti faire, par exemple, Fifobo. Il a dit qu'en cas d'affinage, il disparaît. Bien. Je connais les choses. Si tu fais Fifobo, il y a un affinage, tu oublies la parole à dire. Tu vas mourir, non? Ou bien? Parce que tu dois pouvoir te rappeler au moment de la parole à sortir. Combien de chrétiens connaissent face à chaque situation de la vie le verset à dire? Les gens achètent Psaume de David et puis lisent ça comme un livre mystique. Il faut comprendre la parole de Dieu et pouvoir l'utiliser. Dis à Josué que la parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Vous ne connaissez pas la parole. Vous ne parlez jamais la parole. Et vous voulez combattre des gens qui ont leurs incantations pour chaque chose. Ton chauffeur rentre dans ton bureau, il met une feuille dans la bouche, il dit qu'il faut que mon patron m'écoute. Vous, vous êtes chrétien, vous n'avez rien. En fait, vous avez, mais vous refusez de prendre. Être chrétien de dimanche, ne pas connaître la parole de Dieu, ne pas lui obéir, c'est comme un féticheur qui ne reçoit pas les règles de son fétiche et qui a oublié de faire l'incantation. Combien arrêtez d'aller chez le féticheur? Arrêtez d'aller à l'église si vous ne voulez pas vous résoudre à comprendre la parole de Dieu et à lui obéir. Car c'est ça qui vous donne la puissance spirituelle. Tant que vous ne ferez pas ces deux choses, comprendre la parole et lui obéir, vous êtes à côté. Vous êtes en villégiature à l'église. Or, nous n'allons pas à l'église pour être en villégiature. Nous allons à l'église pour porter des fruits. Et donc, parce que Dieu veut empêcher ses enfants d'aller tout droit en enfer, pour sa gloire d'abord, parce que c'est une question d'humiliation pour Dieu, d'être Dieu, de devoir laisser ses enfants aller en enfer. Voilà, il ne peut pas supprimer l'enfer. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tout faire pour aider ses enfants à ne pas prendre le chemin de l'enfer. Dieu avait dit que si nous péchons, nous allons mourir. Ils ont péché, ils sont morts. Ils ne sont pas morts le même jour. Encore qu'il y a deux manières de le comprendre. Mais l'homme est fait de chair et d'esprit. La réalité, c'est que nous ne sommes pas un corps qui a un esprit. Nous sommes un esprit dans un corps. Ce qui existe de toute éternité, qui existe maintenant et qui existera toujours, ce qui conduit notre vie, ce n'est pas notre corps. Notre corps, c'est comme la carapace d'une tortue. Ce n'est pas ça la tortue. C'est ce qu'il y a dans la carapace qui fait la tortue. On peut vous couper vos bras. On peut vous couper tous les organes. Vous êtes toujours là. Et vous êtes la même personne. Ce qui fait vous là, c'est votre esprit. Quand ils ont péché, leur esprit est mort. Et vous allez voir que quand ils ont péché, ils ont perdu la communion avec Dieu. Ils ont été chassés du jardin, ils ne voyaient plus Dieu. Parce que Dieu est un esprit. Pour voir Dieu, pour entendre Dieu, il faut se connecter à lui spirituellement. Il faut se connecter avec lui en esprit. Quelqu'un qui n'a pas d'esprit ne peut pas voir Dieu parce que Dieu est esprit. Quelqu'un qui n'a pas d'esprit ne peut pas voir Dieu, ne peut pas interagir avec Dieu parce que Dieu est esprit. Par le péché, ils ont perdu leur esprit. Ils ont donc été chassés du monde spirituel. Ils ont été chassés de la dimension où ils avaient communion avec les anges, avec Dieu, avec tout. C'est pour ça que Dieu dit, mais où es-tu? Dieu est esprit, il connaît leur esprit. Il n'a plus vu leur esprit dans le jardin, il dit, vous êtes où? Et là, c'est leur chair nue qui n'est plus protégée, qui répond. Donc, ils sont morts ce jour-là. Ils ont perdu leur esprit. L'autre chose, parce que je me suis demandé pendant longtemps, mais pourquoi Dieu pouvait dire qu'ils allaient mourir alors qu'ils ne sont pas morts? Oh, tout ce que Dieu dit, c'est accompli. Et j'ai découvert après dans la Bible. La Bible dit qu'un jour, pour Dieu, vaut 1000 jours dans le monde. C'est écrit dans la Bible, non? Qu'un jour devant Dieu, c'est comme 1000 jours dans le monde. Ça veut dire qu'un an devant Dieu vaut 1000 ans. Au prorata. On est d'accord? Oui ou non? Adam et Ève ont vécu combien d'années? 900 et quelques. Ils n'ont pas fait 1000 ans. Personne n'a jamais fait 1000 ans. Ça diminue tous les jours, mais les plus vieux n'ont jamais fait 1000 ans. Cela veut dire qu'au sens de la parole de Dieu, si un jour vaut 1000 jours devant Dieu, qu'une année vaut 1000 années devant Dieu, même en termes de chair, Adam et Ève n'ont pas vécu un jour devant Dieu. Vous me suivez? Donc, leur esprit est mort instantanément et leur chair est mort dans le jour de Dieu dans tous les cas. Parce qu'ils étaient censés vivre pour l'éternité. Et qu'est-ce que Jésus est venu faire? Vous aviez l'esprit de Dieu. C'est ça qui faisait vous un citoyen de la quatrième dimension du règne, c'est-à-dire de la dimension de Dieu. Vous avez péché, votre esprit est mort. Donc vous n'avez plus rien à voir dans la quatrième dimension. Vous êtes maintenant l'esclave de la poussière, de la chair avec ses malédictions. Il en a été ainsi jusqu'à ce que Jésus vienne. C'est parce qu'ils étaient sous la malédiction du péché qu'ils ont perdu leur esprit. Qu'est-ce que Jésus vient faire? Il vient récupérer leur péché pour son compte. Il paye pour leur péché. Et personne ne peut payer un péché deux fois. À partir du moment où il paye pour leur péché, ils sont acquittés. À partir du moment où il les a ainsi acquittés, il n'y a plus de raison qu'il n'ait pas l'esprit de Dieu. Il dit, maintenant que j'ai fini ça, laissez-moi, je vais là-bas, je vous renvoie l'esprit. Il s'en va et à la Pentecôte, l'esprit revient. Et ces gars qui étaient peureux, enfermés, comme des peureux dans un bâtiment en train de pleurer, dès que l'esprit revient, ils redeviennent des super-hommes qui sortent, qui naguent les gens, qui parlent en langue, qui guérissent, qui font des miracles, qui sont tués en riant. Ils redeviennent comme Adam était au début. Parce que vous n'avez jamais réalisé ça. C'est pour ça qu'on appelle Jésus le dernier Adam. Adam est venu avec la puissance, il a perdu par la désobéissance. Jésus est venu payer le péché, il a renvoyé l'esprit. Il a créé une nouvelle race de personnes. Les personnes nées de nouveau, c'est-à-dire les personnes qui, parce que Jésus a payé pour eux et a rendu l'esprit à nouveau disponible, ont la possibilité de saisir cet esprit et de renaître spirituellement de nouveau. C'est pour ça qu'il dit à Nicodème, nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Et on naît de nouveau comment? Nicodème lui a demandé d'eau et d'esprit. D'eau pour le baptême, d'esprit parce que c'est l'esprit qui fait de vous un enfant de Dieu. C'est l'esprit qui revient en vous, qui vous permet d'interagir avec Dieu, d'interagir avec le diable, bref, d'agir dans la quatrième dimension. Et être spirituellement puissant, c'est être actif au niveau de son esprit. Parce que tout ce qui se passe dans la troisième dimension a d'abord été contrôlé dans la quatrième dimension. Rien de visible ne se passe sans avoir été précédé par de l'invisible. Un bébé qui naît, c'est précédé par un spermatozoïde invisible. Une maladie est précédée par un virus invisible. Vos téléphones marchent parce qu'il y a des ondes invisibles. Le courant n'est pas visible. L'air n'est pas visible. La plupart des choses ne sont pas visibles. L'invisible précède toujours le visible. Les problèmes de votre vie sont d'abord gérés dans la quatrième dimension. Votre vie n'est que le reflet de ce qui s'est passé dans la quatrième dimension. C'est comme un téléviseur, on voit un film à la télé. C'est pas à la télé que ça se joue. Le scénario a été tourné quelque part il y a longtemps. Si c'est du direct, il faut aller au studio, ça se tourne. Si ce n'est pas du direct, c'est déjà trop tard. Mais beaucoup de gens passent leur vie à essayer en vain de s'en sortir. Ils font tout, ils courent, ils se battent, ils font tout, ça ne marche pas. Pourquoi? Ils regardent un film à la télé, ils essaient de changer le scénario à la télé. C'est possible? C'est possible de changer le scénario à la télé? Eh bien, essayer de régler ce problème dans la troisième dimension, c'est exactement comme vouloir changer. Comme les gens font dans leur salon là. Bon, il n'a qu'à passer le ballon, il n'a qu'à passer. Mais si tu n'es pas là, tu ne peux pas changer ce qui se passe à la télé dans ton salon. Ou bien, laisser Dieu, laisser la quatrième dimension, renoncer à se mettre en règle avec Dieu pour rien spirituellement. Et essayer de régler le problème charnellement, c'est comme essayer de régler, de changer un scénario à la télé. Ce n'est pas là que ça se joue. Quand ça arrive là, c'est trop tard. Pour pouvoir rien spirituellement, il faut naître de nouveau. Il faut un moment s'arrêter, comprendre ce que nous venons de dire, demander pardon à Dieu, on va le faire tout à l'heure pour ceux qui le veulent, et dire: Seigneur, maintenant j'ai compris. L'appareil a suffi, j'ai assez erré. Je veux à nouveau que ton esprit vienne à moi. Mais il dit: je me tiens à la porte. Si quelqu'un m'invite, il ne rentre chez personne qui ne l'est pas invité. Si quelqu'un m'invite, je rentre. Et il a dit: je vais souper avec lui. Je me suis demandé souvent pourquoi il dit souper, pas petit déjeuner. Et le Saint-Esprit m'a dit: c'est parce que même si c'est à une minute de ta mort que tu l'appelles, c'est le soir, ta vie, c'est pas grave, il viendra. Ça fait que certains se disent: bon, j'ai encore un peu de temps pour faire la vie avant d'appeler Dieu. Mais quand on dit qu'on a du temps là, tu peux te lever et mourir en même temps. Ton temps sera fini. Comme tu ne sais pas quand est le soir de ta vie, peut-être que tu es au soir de ta vie, mais là tu ne sais pas. Peut-être que tu es au matin, tu ne sais pas. Il vaut mieux rapidement rentrer dans la bergerie, parce que si on siffle et que tu n'as pas encore fait la paix avec lui, tu vas pour toujours dans le feu éternel. Les problèmes de là-bas, c'est une chose, mais tu n'auras même pas vécu ici. Parce que je suis venu pour que vous ayez la vie d'abord, ici, même en abondance. Sinon, vous écoutez parce que vous mangerez ce que vous porterez. C'est les païens qui s'en occupent. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses seront données par sur quoi. Et je vous l'illustre encore parce que tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Il faut être logique. Il dit: cherchez le royaume de votre Père. Cherchez sa justice. Et tout vous sera donné par sur quoi. D'accord? Qui est dans la maison de son Père et qui à midi est obligé de supplier pour manger? Vous connaissez quelqu'un qui habite chez son père, chez sa mère, qui à midi dit: pardon, pardon, j'ai faim, est-ce que vous pouvez me donner à manger? On prépare à manger et on te force à manger. On s'énerve si tu ne manges pas. Si tu es dans la maison de ton père, que tu es malade, tu t'es à peine réveillé, que ton père dit: mais tu ne te portes pas bien, va me prendre tel médicament. Tu dis: papa, va me prendre le médicament, j'ai dit. Si tu es dans la maison de ton père, tu te réveilles, ta chemise est déchirée, tu vas sortir chez moi comme ça, prends, va t'acheter une chemise, va te changer. Si tu vois un gars qui dit: je n'ai pas payé le loyer, le propriétaire me poursuit, je ne sais pas ce que je vais manger aujourd'hui, c'est qu'il a cru à un moment de sa vie qu'il est fort, il est parti de ses parents et maintenant il est en train de goûter la vraie vie. Personne n'a des problèmes de ce genre-là dans la maison de son père. Ou bien, si quelqu'un est en train de jeûner pour manger, c'est qu'il n'est pas dans la maison de son père. Parce qu'à un moment, il s'est dit: puis j'en ai marre. Tu rentres à 21h, papa dit: d'où tu viens? Papa dit: pourquoi tu as porté la mini-jupe? Papa dit: je ne veux pas que Pierre t'appelle. Pour ne plus respecter les lois du papa, moi je sors de la maison, je vais me débrouiller. Et là, tu découvres la vraie vie. Tu commences par dire que la vie des enfants est douce. C'est toi qui as sorti de la maison. C'est pareil avec Dieu. Tant que vous allez dire que les lois de Dieu sont trop compliquées, vous voulez vivre comme vous voulez, c'est la modernité, le monde a changé, on peut faire ce qu'on veut, allez-y. Mais vous êtes comme quelqu'un qui rentre dans la maison de son papa. Pour manger, vous êtes obligé d'appeler papa pour dire: m'pa, bon, il ne faut pas te fâcher, hein? Tu peux m'envoyer un peu d'argent, je suis quelque part à jonquer là, mais si tu veux envoyer 5 000 francs, c'est pas mal. Si c'est un pas sérieux, il va se dire: c'est bon, ça va commencer à chauffer. Il faut le laisser. Quand il va faire bien chauffer, il va revenir là, mais il faut bien. Est-ce qu'un père peut envoyer de l'argent à sa fille qui dit qu'elle est à jonquer et qu'il appelle pour lui envoyer de l'argent par téléphone? Quand vous êtes dans le péché, dans la désobéissance à Dieu, que vous priez, vous croyez que Dieu va vous envoyer les moyens de continuer de persévérer dans la désobéissance? Je dis: c'est le moment de bien fermer le robinet. Peut-être que si je ferme le robinet, ce petit-là finira par comprendre que ça ne marche pas et viendra à moi. Et Dieu dit: je les conduirai dans le désert pour parler à leur cœur. Vous allez voir que tous les grands hommes passent dans un désert. Et en général, on découvre Dieu dans le désert. C'est des circonstances que Dieu organise dans votre vie pour vous briser. Il dit: l'humilité précède la gloire. Pour vous briser de telle sorte que, ne pouvant plus compter sur rien humainement, vous soyez obligé de dire: Seigneur, je suis fatigué. Il dit: maintenant tu es fatigué, on peut commencer à faire des choses sérieuses. Parfait, assez quoi. C'est comme ça que Dieu travaille. Vous allez voir que si Dieu veut mettre de l'eau dans votre vie, il va d'abord la briser. C'est pour ça que je suis arrivé pour créer la guerre entre les mariés et leurs femmes, entre les pères et les enfants, pour détruire. Ce n'est pas pour qu'il veut faire du mal. Quand vous avez lu ça dans la Bible, ça n'a pas surpris. Pourquoi Jésus dit qu'il est venu pour détruire? Il n'est pas venu pour détruire votre vie. Il est venu pour détruire tout ce que Satan se met dans votre vie. Les belles affaires, les filles, les boîtes de nuit, la cigarette, les soirées avec plein de whisky, on se saoule. Il est venu pour détruire tout cela. Et quand Dieu rentre dans votre vie, il va combattre tout ce qui s'oppose à sa volonté, y compris vous-même. Pourquoi? Quand vous venez au Seigneur, vous devez vous attendre à avoir quelques périodes de tension. C'est comme si je prends un quartier comme Vossa. Les gens de Vossa disent que je veux qu'il faut transformer Vossa en quartier Jacques. Je dis d'accord, je suis président, je vais le faire. Il n'y a pas de problème. Mais la première chose que je vais faire, c'est quoi? Je vais commencer à casser. Ou bien, quand je vais commencer à casser, je vais commencer à pleurer. Ah, je ne peux plus vendre carte de crédit dehors. Ma boutique pour vendre du riz, là, personne ne vient plus. Je ne peux pas transformer Vossa en quartier Jacques à moins de casser complètement tout ce qui est à Vossa d'abord. Si vous appelez Dieu dans votre vie, il viendra. Il va vous restaurer. Il va vous faire récupérer tout ce qui est perdu. Il va vous préparer à rentrer dans la glorieuse destinée qu'il vous a préparée. Mais vous devez accepter d'abord qu'il casse comme toute personne qui veut construire du sérieux. Dieu ne viendra jamais tisser sa corde au bout de la corde de Satan. Ça là, c'est entre les hommes, on tisse l'ancienne corde au bout de la nouvelle ou je ne sais pas trop quoi là. Ça là, ça ne concerne pas Dieu. Dieu ne tissera jamais sa corde au bout de la corde de Satan. Quand il vient dans votre vie, il nettoie tout ce que Satan y a semé. Si vous résistez à ce qu'il casse ce que Satan a semé, vous retardez votre bénédiction. Je donne un exemple. Vous êtes une femme, vous avez cherché mari fatigué, vous n'avez pas trouvé. Vous commencez à prier. Voilà à peu près comment Dieu travaille. Dieu sait quel mari vous a prévu toute éternité. Il sait par exemple que c'est quelqu'un qui aime bien manger et qui est capable de vous tromper simplement parce qu'il a découvert quelqu'un qui prépare bien. Or, Dieu ne donne rien qui soit suivi de chagrin. S'il vous fait rencontrer le mari qui vous a prévu aujourd'hui alors que vous êtes nul à la cuisine, que vous êtes une paresseuse, il va jouer avec vous quelques jours, il va se rendre compte que vous n'êtes pas conforme à ses goûts et il va partir. Vous aurez gaspillé ce que Dieu a préparé toute l'éternité. Comme Dieu ne peut pas vous donner quelque chose qui va être suivi de chagrin, il dit non, ce n'est pas encore le moment de lui donner le mari que j'ai prévu. Quand tu commences à prier pour dire, Seigneur, où est mon mari? Tu as promis que je vais marier, tu es prête? Parfait. Tu vas par exemple à une cérémonie, à un anniversaire, tu organises ton anniversaire, en bonne paresseuse, tu as dormi toute la journée, c'est ta maman qui a fait la cuisine. Un scénario se passe, et puis devant tous tes amis, ta maman commence à se moquer de toi, commence à te jurer. Et tous tes copains, tout le monde se moque de toi, tu es vraiment humilié. Tu es même capable de dire, je ne vais plus jamais parler à ma maman. Dieu t'a brisé, parce qu'après ça, il t'a défié sur la cuisine. Tu vas te fâcher. Peut-être que tu vas commencer à lire des livres de cuisine. Tu vas vouloir relever des filles. Tu ne voudras plus jamais qu'on se moque de toi. Dieu t'aura humilié de manière pour les hommes extraordinaire. Mais c'est un acte d'amour parce qu'il veut déclencher dans ta vie le processus par lequel tu vas te mettre en règle. Et peut-être qu'au bout d'un an, à cause de cette humiliation, tu vas te reprendre. Tu vas devenir une bonne cuisinière. Dès que tu as une bonne cuisinière, comme par hasard, l'homme que tu attendais va se présenter. Tu penseras que c'est le hasard. Dieu il ne fait pas de hasard. Il a synchronisé les choses pour te donner ce qu'il te faut et que quand il va venir, il ne part pas. Maintenant, tu ne comprends pas. Tu diras maintenant que je prie pour avoir mari, c'est à ce moment-là que Dieu permet qu'on m'humilie devant tous les garçons à mon anniversaire. C'était le chemin à prendre pour que Dieu te bénisse. C'est comme ça que Dieu travaille. Si tu es orgueilleux, tu penses que tu es brillant, tu penses que tu peux tout. Dieu n'utilise pas les gens qui peuvent tout. Il utilise les gens qui croient qu'ils ne peuvent rien. C'est ça les pauvres de cœur. Il va faire des choses pour que tout ce que tu essaies échoue. Il va t'humilier, il va te briser. Tu vas devoir te cacher. Pendant que tu te caches, il va te parler. Il va t'apprendre la vérité. Si vous n'êtes pas prêt à être humilié, vous n'êtes pas prêt à être brisé, vous n'êtes pas prêt à vous soumettre à la puissance de Dieu, vous ne verrez jamais la gloire de Dieu. Beaucoup de gens prient mais ne sont pas bénis parce que quand ils prient, Dieu veut les travailler. Ils disent non, ne me touche pas. Tu ne peux pas aller à l'hôpital et dire que le bistouri ne va pas te toucher. Ce n'est pas la peine d'aller à l'hôpital. Quand tu vas à l'hôpital, c'est que tu dis bon, maintenant je suis prêt à dormir, à anesthésier, moi, faites de moi ce que vous voulez. On te demande même de signer. Si tu n'es pas prêt pour ça, pourquoi tu vas à l'hôpital? J'ai mal à la petite. On va vous opérer, non, ne me touche pas. Continue d'avoir mal. Ou bien, et on dit oui, j'ai prêt, Dieu ne va pas t'opérer. Tu es venu à l'hôpital, on veut t'opérer, tu dis qu'on ne va pas t'opérer. Dieu va faire quoi? La parole de Dieu, il a dit quoi? Une épée à double tranchant qui va jusqu'à la jointure de la moelle et de l'os. C'est une opération que la parole de Dieu vous fait. Quand tu écoutes la parole de Dieu, elle te montre un peu comme un référentiel en quoi tu es conforme à la vérité de Dieu, en quoi tu n'es pas conforme. Le Saint-Esprit en toi va t'interpeller et va t'inviter à te mettre en règle. Si tu te mets en règle, tu es béni. Si tu ne te mets pas en règle, Dieu va t'appliquer une série d'épreuves pour essayer de te briser, t'obliger à te soumettre à lui. C'est comme un enfant. S'il faut que tes parents t'aient frappé pendant 10 jours pour que tu finisses par obéir,
C'est bête. Tu n'as pas de problème. Dès qu'on parle, obéit. Et puis tu vas poser problème, c'est pas avec Dieu. Plus vite vous obéissez à Dieu, moins vous serez châtié. Moins vous obéissez à Dieu, plus il va vous châtier. Dieu dit, qui aime bien, châtie bien. Et Dieu dit aussi quelque chose, parce que pendant longtemps, on se demande, mais est-ce qu'il faut être très dur avec les enfants ou être trop gentil? Très dur avec les collaborateurs, très gentil. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, aux hommes sages, les conseils suffisent. Mais aux sots, il faut le bâton pour comprendre. Si vous êtes sot, Dieu va vous appliquer les pires chagrins de la vie pour essayer de vous récupérer. Si vous êtes intelligent, dès qu'il vous parle, vous obéissez. Vous n'allez pas avoir de problème, vous allez croire que vous êtes chanceux. C'est à vous de choisir. Pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à prospérer financièrement avec Dieu? Pour le phénomène suivant, je vais vous donner un exemple, après je vais peut-être m'arrêter, prendre quelques questions, on va continuer demain. Alors pour les nouveaux, je précise que les séminaires se font tous les mercredis, de 19h30 à 21h30, et on continue le même séminaire. Hein. C'est un séminaire en deux soirées, le jeudi, le même thème, on rentre dans la deuxième partie, toujours 19h30 à 21h30. Et ceux qui sont là à partir de 19h, on prend les attentes, on peut discuter, si des gens veulent me poser des questions, on le fait dans la première partie. Donc, je termine donc par cet exemple avant de prendre quelques questions. Pourquoi, par exemple, il y a des gens qui ne sont pas bénis financièrement? Ils ont juste le strict minimum pour ne pas mourir de faim. C'est à quoi que Dieu leur donne de quoi échapper à un problème, mais laisse tous les autres là. Ils sont, c'est l'équivalent des Israélites dans le désert. Vous allez voir que dans le désert, Dieu leur donnait la manne et l'eau. Leurs vêtements ne s'usaient pas. Ils n'étaient pas malades. Ils avaient juste chaque matin la nourriture de ce jour-là. Si quelqu'un veut faire une économie pour demain, ça pourrit. C'est-à-dire que Dieu ne voulait pas qu'ils aient des réserves. Dieu ne voulait pas qu'ils aient de quoi tenir deux jours sans aller à Dieu. Chaque matin, ils devaient se lever, aller se présenter devant Dieu pour prendre leur argent de poche. Si quelqu'un ne se lève pas pour aller devant Dieu pour prendre l'argent de poche, il n'a pas la nourriture de ce jour. C'est faire la manne. Et dans notre Père, on dit notre Père, on le récite pendant avec les chapelets 100 fois par jour là. On n'écoute même pas ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'il dit? Donne-moi aujourd'hui mon pain de ce jour. Le notre Père ne donne pas à Dieu des milliards. Il demande à Dieu le pain de ce jour. Parce que Dieu n'agit jamais trop tôt, jamais trop tard. Si tu as besoin d'utiliser un million aujourd'hui, pourquoi tu veux qu'il te donne un milliard aujourd'hui? Ce serait trop tôt. Tu le veux parce que tu veux te sentir en sécurité, c'est-à-dire que tu veux en avoir assez pour te dire, même si Dieu n'était pas là demain, je dois pouvoir m'en sortir. C'est-à-dire que tu penses que l'argent est plus fidèle au cas où il y aurait des problèmes que Dieu. Cette idée-là déplaît à Dieu, tu as donc fait de l'argent une idole. Tu as estimé que l'argent était plus digne de confiance en cas de problème que Dieu. Si tu as un milliard à la banque, ton enfant fait un accident samedi soir, si c'est la caisse d'épargne, il faut prendre un rendez-vous pendant un an avant de trouver ton argent. Le fait d'avoir l'argent ne te sert à rien. Tu vas avoir l'argent, tu vas mourir. Mais si Dieu est avec toi, tu peux n'avoir rien. On va d'abord te soigner. Quelqu'un sera là. Dieu va faire quelque chose. Dieu est celui qui est le plus fidèle. Si nous connaissons Dieu, nous dirions, je m'en fous de ne rien avoir, pour peu que j'aie Dieu. Mais les gens tendent à dire, même si Dieu n'est pas là, ce n'est pas grave, pour peu que j'aie un peu d'argent. Ils préfèrent l'argent à Dieu. Et ça, Dieu le punit. C'est pour nous éduquer à perdre ce comportement que Dieu nous met dans la situation de la manne. Écoutez, si vous avez un enfant, vous lui donnez chaque lundi peut-être 7000 francs. À raison de 1000 francs par jour pour l'argent de poche. Vous découvrez que quand il prend les 1000 francs du matin, il ne vient plus à la maison jusqu'à dimanche soir. Il va dormir chez ses copains, chez ses copines, dans les ghettos. C'est dimanche soir qu'ils vont blaguer. Maman, il ne faut pas se fâcher. Hein. Bon, c'est que je suis en train d'étudier avec des amis, tout ça. Bon, on fait comment pour demain? Il prend l'argent. Vous dites que c'est peut-être une fois en passant. Et vous voyez que pendant 2 semaines, 3 semaines, c'est la même chose. Il n'est là qu'au moment de prendre l'argent. Si vous êtes un père ou une mère sage, vous allez commencer à donner 1000 francs par jour. Vous voulez qu'il sera là tous les matins. Ah, si ça marche, je vais commencer à donner 500 francs le matin, 500 francs à midi. Vous commencez à voir votre enfant à midi. N'est-ce pas? C'est pareil, c'est comme ça que Dieu fait. Il n'est pas plus bête qu'un père humain. Si, tant que vous n'avez pas de problème, vous ne pensez pas à Dieu, Dieu laissera les problèmes arriver à vous pour que vous veniez à lui. Si c'est quand vous êtes malade que vous courez à l'église, Dieu laissera la maladie lui rapporter ses enfants. Quel père veut pas ses enfants? Si c'est quand vous êtes pauvre que vous priez, quel père ne veut pas voir ses enfants lui parler? Il vous laissera la pauvreté pour que vous l'appeliez souvent. Mais si, quel que soit l'état de vos problèmes, même si vous êtes milliardaire, vous êtes en train tout le temps de prier Dieu, vous êtes en train tout le temps de travailler pour Dieu, vous êtes tout le temps en train de réjouir le cœur de Dieu, il vous en donnera de plus en plus parce que vous avez été fidèle dans les petites choses, il vous donnera de grandes. Si Dieu nous donne de petites choses, c'est parce que nous ne sommes pas fidèles dans les petites. Ou alors parce que un week-end, tu as gagné 100 000 francs, tu as donné le El Presidente, c'est toi qui as pris, tu as loué le bar du quartier, tu as engrossé toutes les filles, tu es le très très fort des forts, et puis Dieu dit, le petit là, il trouvait 100 000 francs. Ce qu'il a créé là, si je lui donne 1 million, il va falloir créer une deuxième maternité dans le quartier. Dieu qui vous aime, si tu achètes un vélo à ton enfant et il devient le grand bandit du quartier, tu vas lui acheter moto. Pourquoi vous croyez que Dieu va vous acheter moto si avec un vélo vous êtes un cas? Vous prenez votre argent, c'est pour vous dépigmenter. Ça veut dire que vous en avez trop. Pas que Dieu va vous en donner en plus. Et que tu n'as plus rien à faire de l'argent à part de changer ton corps que Dieu a créé. Donc tu n'as pas besoin d'argent. Pourquoi tu veux qu'il t'en donne encore? Ce que vous faites de ce que vous avez reçu détermine ce que Dieu vous donnera encore plus. C'est des lois de Dieu. Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et il dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Si vous connaissez les lois de Dieu, comme 1 plus 1 font 2, comme de l'eau congélateur donne de la glace, qu'on soit gentil ou méchant. Si vous connaissez les lois de Dieu et que vous appliquez les lois de Dieu, Dieu vous bénira parce qu'il n'est pas menteur. Donc le club Jésus pour réussir, ce n'est pas une église, c'est un ministère chrétien qui vise d'abord à amener des gens au Seigneur, parce que c'est une demande de sauver des gens, en leur enseignant de manière pragmatique et concrète la parole de Dieu, en leur ouvrant les yeux, en les restaurant dans leur identité, dans leur autorité spirituelle, et en les aidant à porter des fruits. C'est-à-dire que si un chrétien ne porte pas des fruits, ça devient une pierre d'achoppement pour les autres. Si mon père est milliardaire, que moi je ressemble à un mendiant, on va se dire, c'est vraiment son enfant ou bien c'est un de ses domestiques. Si c'est vraiment son enfant, ce gars-là ne doit pas être très sérieux pour être milliardaire et que son enfant soit dans la pauvreté comme ça. Quand on nous voit là, on n'a pas envie de dire gloire à Dieu. Les chrétiens sont les plus méprisables, les plus misérables, les plus pauvres. Comme si leur Dieu était le plus petit des dieux. Heureusement, ce n'est pas parce que notre Dieu est le plus petit. C'est parce que nous obéissons beaucoup moins à notre Dieu que les autres. Si vous connaissez la parole de Dieu, que vous lui obéissez, il va manifester toute sa puissance à travers vous. Si vous allez par exemple dans votre bureau, n'importe qui est malade, vous lui imposez la main et guérit. N'importe qui est triste, vous lui donnez la joie. N'importe qui a des soucis, vous lui donnez une parole de sagesse qui le restaure. Vous avez besoin d'évangéliser pour que les gens courent à l'église. On est obligé d'évangéliser pour que les gens courent à l'église parce que notre vie montre que nous sommes un échec et que nous passons tout le temps à dire « Jésus vous aime, Jésus est la solution ». Les gens ont envie de se dire « Jésus est la solution, toi tu es dans les problèmes. De quel Jésus tu parles ?» Il a dit « Votre Dieu là, quand vous reconnaîtrez à vos fruits, toi tu n'as rien, tu me dis de te suivre pour aller à ton Dieu. » Ce n'est pas possible que ton Dieu dise la vérité. Donc si nous voulons glorifier Dieu, notre vie doit déjà obéir à Dieu pour montrer à quoi ressemble une vie qui obéisse à Dieu. C'est la vocation du peuple Jésus pour réussir. À travers ces séminaires-là, les mercredis, les jeudis, à travers le Gospel Night Club, certains d'entre vous le connaissent peut-être pas, c'est quoi le Gospel Night Club en bref? C'est une boîte de nuit chrétienne. On va me dire, boîte de nuit chrétienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'a pas appelé ses enfants à être des locats, des idiots. Le loisir a été créé par Dieu pour épanouir le corps. David dansait. Jésus était à des fêtes, les publicains disaient, mais pourquoi il va à la fête? Mais la fête, c'est glorifier Dieu. Manger, boire, se réjouir, c'est montrer que Dieu nous a donné une joie. Il dit, je suis venu pour que votre joie soit complète. Demandez afin que je vous donne que votre joie soit complète. Dieu veut des gens qui rayonnent de joie. Il dit, gardez votre cœur en joie. Réjouissez-vous en toutes circonstances. Le Dieu que nous avons est un Dieu de joie, pas un Dieu de pauvre. Mais les chrétiens croient qu'on peut moraliser les gens. Dit, tu ne danseras pas, tu ne feras pas la fête. Dieu a prévu dans chaque jeûne une énergie qui a besoin d'être défoulée. Si vous ne permettez pas aux jeunes de danser, et vous leur interdisez de danser, soit ils s'enferment et deviennent locs, ils ne vont pas être épanouis. Soit ils vont se cacher la nuit pour aller danser parmi les païens. Ils vont aller voir des prostituées. Ils vont aller boire dans les boîtes de nuit. On ne détruit durablement que ce qu'on remplace valablement. Le Gospel Night Club, que si les jeunes ont envie de sortir la nuit, ils n'ont qu'à venir. Sur les mêmes rythmes que dans le monde. Il y a du reggae, il y a du jazz, il y a du zouk, il y a du slow, il y a du agbaja, il y a du soyoyo. Il y a tous les rythmes aujourd'hui en musique gospel. Avec des paroles qui sont en plus des paroles prophétiques pour les édifier. Au Gospel Night Club, gratuitement, tous les vendredis, de 22h à 6h du matin, les gens viennent ici, toute la salle, les gens viennent, et il y a un DJ qui, dans la première partie, anime, ne passe que de la musique chrétienne, mais dans différents rythmes, on danse jusqu'au matin, et à partir de 2h du matin, l'orchestre fait du live, aussi pour permettre aux gens de se défouler, de se déstresser de la semaine. C'est un peu en même temps du sport. On s'amuse, on loue Dieu, on adore Dieu, mais en dansant comme les gens du monde le font. Le lendemain matin, gratuitement, on se porte bien. Si on veut aller faire quelque chose, on va le faire. Donc, le Gospel Night Club, c'est un loisir pour toute la famille. Il y a des vieux, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des bébés qui viennent. C'est un loisir pour toute la famille. Et nous allons même lancer bientôt un nouveau concept qui est pour les étudiants. et les élèves. On s'est rendu compte que beaucoup de parents commencent à avoir envie d'envoyer leurs enfants au Gospel Night Club. Ça fait 3 ans qu'on le fait, il n'y a pas de problème, les gens ne se battent pas, c'est sain. Mais ils se disent, mon enfant va dire qu'il va au Gospel Night Club, puis la nuit va sortir pour aller ailleurs. Et ils ont raison. Donc nous allons créer bientôt un système de cartes où quand quelqu'un rentre au Gospel Night Club, s'il est venu de lui-même, on lui donne une carte qu'il faudra présenter pour sortir. Mais si c'est un père qui a amené son enfant pour dire, bon, tu veux te distraire, pas de problème, je t'envoie au Gospel Night Club. Tu vas t'amuser, mais tu ne vas pas ailleurs. S'il a peur que l'enfant sorte la nuit, quand il amène l'enfant, c'est lui qui prend la carte. Tant qu'on n'a pas la carte, là, l'enfant ne sortira pas de cette salle. Il peut aller aux toilettes, mais il ne va pas sortir d'ici. Il y aura la sécurité. Donc, les parents pourront amener leurs enfants, se dire, vous voulez vous amuser, allez vous amuser. Mais nous faisons confiance au club Jésus pour ici, pour que vous vous amusiez, mais dans le sain, dans le raisonnable. Parce qu'on ne doit pas non plus priver les jeunes de loisirs sous prétexte qu'on veut les éduquer. Il faut leur offrir du loisir, mais leur apprendre à s'amuser sainement. C'est un peu ça, notre vocation au niveau du Gospel Night Club. Et ça va commencer, ça n'a pas encore commencé à partir du 24 novembre, donc dimanche prochain, sur inspiration de Dieu. Nous allons commencer à faire des cultes ici, tous les dimanches soirs de 19h à 21h. Donc, à partir du 24 novembre, vous pouvez le noter, nous allons commencer à faire ici des cultes tous les dimanches de 19h à 21h, parce que Dieu nous dit, vous enseignez, vous équipez les gens, mais vous devez aussi prendre le temps de les aider à apprendre à communier avec Dieu, à apprendre à se mettre en relation étroite avec Dieu, à vivre avec Dieu. Donc, ça ne me plaît pas forcément, mais comme j'enseigne qu'il faut obéir à Dieu, je suis obligé d'obéir. Nous allons donc commencer à avoir ces moments de communion-là tous les dimanches soirs. Dimanche soir, parce que plein d'églises sont déjà à la culte les dimanches matins, et que certains comme moi n'aiment pas se réveiller les dimanches matins, c'est le seul jour où on dort. Donc, il va y avoir un culte les dimanches soirs pour ceux qui veulent bien dormir dimanche matin, mais dimanche soir, pouvoir venir. Donc, voilà globalement où on va. Il va y avoir beaucoup d'autres choses. Je peux déjà vous dire que cette année, le club va beaucoup faire des sorties sur le terrain parce que le Bénin a d'énormes problèmes. Nos Béninois, les Béninois, les Africains ont d'énormes problèmes. Et la seule solution à leurs problèmes, ce n'est pas la politique, c'est de leur apporter la vérité, d'aider chacun à vivre avec Dieu. C'est Dieu qui bénit. Quand vous regardez dans l'histoire, tous les pays bénis ont été bénis parce qu'ils ont été en communion avec Dieu. Les États-Unis sont l'un des derniers pays à être créés. Ça fait 300 ans. 3 siècles, ce n'est pas grand-chose pour un pays. Mais ils sont les premiers, sans deuxième, dans tous les domaines. Il n'y a pas un seul domaine au monde où les Américains ne sont pas premiers. Cinéma, militaire, économique, tout. 300 ans, c'est l'époque de Gleyler, il n'y a pas longtemps. L'Europe existe depuis des millénaires, l'Afrique depuis des millénaires, l'Asie depuis des millénaires. L'un des derniers pays, vous prenez le prix Nobel, il n'y a que. Les inventions, il n'y a que. Le militaire, il n'y a que. Le sport, il n'y a que. Ils sont premiers sans deuxième. Ils sont la tête et non la queue. Dieu a dit que toute personne qui fonde sa vie sur lui sera la tête et non la queue. C'est le seul pays du God Bless America, une God with trust. Ça se voit dans leur vie. L'Europe s'est développée au siècle des Lumières. On appelle ça la culture judéo-chrétienne. Le siècle, ils ont détruit les sorcières. Ils ont détruit les armes magiques. Ils ont commencé à regarder la lumière. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. L'Europe s'est développée au siècle des Lumières. L'Afrique ne se développera jamais avec le vaudou. Des questions? On va prendre 5 minutes de questions et on va terminer. Il est déjà 21h, presque 30. On veut commencer à terminer. Avant, on a jusqu'à 22h, 22h30. Maintenant, on veut s'imposer la discipline de s'arrêter rigoureusement à 21h30 pour permettre aux gens de rentrer tôt et que ce soit plus facile à gérer pour eux. Une ou deux questions et puis on va s'arrêter. On est là demain encore, 19h à 19h30 et le séminaire commence rigoureusement à 19h30. Ceux qui sont là à 19h, on pourra déjà commencer à échanger. Des questions? Allez-y rapidement. Oui, sans protocole. Alors, nous ne sommes pas une église, hein? Ici on discute. C'est un club de personnes qui réfléchissent sur Dieu. On ne veut pas être des moutons de panurge de Dieu.
Merci beaucoup. Je remercie le nom de l'Éternel pour la séance de ce soir. Et je suis très ravi pour cet enseignement et qui est riche en paroles de Dieu. Et j'ai une petite question par rapport à l'exposé. Vous avez dit, il y a une question que j'ai toujours posée, que je n'ai pas la chance d'avoir une réponse convenable à cette question. Je voudrais savoir pourquoi Dieu, est-ce que Dieu avait su que Adam et Ève vont pécher, ils vont tomber, et puis après il va restaurer l'être humain par Jésus-Christ. Est-ce que Dieu savait que Adam et Ève vont tomber, et est-ce qu'il C'est un regret pour nous qu'Adam et Ève tombent. C'est pas du bien. On n'apprécie pas qu'Adam et Ève tombent. Puisque c'est de ça que nous souffrons aujourd'hui. Pourquoi?
Alors, la question est tellement dense que je ne répondrai qu'à ça et puis on va terminer. Première chose, ce n'est pas vrai que c'est simplement parce qu'Adam et Ève. Bon, c'est vrai que c'est parce qu'Adam et Ève ont péché que nous souffrons aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que nous faisons tous aujourd'hui le péché d'Adam et Ève. Je crois que c'est l'occasion de l'expliquer. Quel est le péché d'Adam et Ève? Le péché d'Adam et Ève, c'est d'avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire quoi? C'est l'arbre de la réflexion. C'est l'arbre du discernement. Quand je dis à mon enfant, assieds-toi là, ne bouge pas. Même s'il se met à pleuvoir, tu ne bouges pas parce qu'on est au marché jusqu'à ce que j'aille acheter des tomates et que je revienne. Un enfant obéissant, même s'il y a un tremblement de terre, on dit, viens, viens. Maman a dit de ne pas bouger. Mais maman a dit, t'appeler, dis à maman qu'elle a dit de ne pas bouger, que j'ai dit que je ne bouge pas. Un enfant qui obéit, c'est un enfant qui exécute, qui applique sans réfléchir les consignes qui lui ont été données par son père. Mais dès que l'enfant commence à dire, maman a dit de ne pas bouger, mais comme la dame là-bas là, a des bonbons, et qu'ici il y a des jouets, et si je bougeais rapidement et je revenais après, ou que des choses comme ça commencent à passer dans son esprit, qu'il commence à essayer d'analyser par lui-même ce qui serait bien ou mal à faire, il tombe dans le péché. Pourquoi? Dieu dit obéis. Ça ne peut pas être lui qui vous fait réfléchir. Quand Dieu a fini de vous dire d'obéir, Satan vient comme Adam et vous dit, Dieu a dit d'obéir, mais réfléchis bien. Tu ne vois pas qu'il y a quand même des biens, des bonnes choses, ou il y a un chemin qui est bien par là. Donc, quand Satan veut vous piéger, il ne vous dit pas qu'il va vous piéger. Il vous dit, Dieu a dit que c'est comme ça. Oublie d'abord Dieu. Essaie d'analyser par toi-même et vois qu'est-ce qui est bien. Mais vous savez que Satan est presque aussi vieux que Dieu. En tout cas, il existe bien avant les hommes. Il a une expérience de roubladise et de manipulation que vous n'aurez jamais. Quand vous commencez à discuter avec Satan et que vous n'êtes pas capable de vous réfugier dans la parole de Dieu, Satan vous perd toujours en vous convaincant que ce qui est faux est vrai. C'est pour ça qu'on l'appelle le père du mensonge. Et ce qu'il a fait à Adam et Ève. Donc, en résumé, quand un père dit à son enfant ne bouge pas, l'enfant n'a pas une tête assez grande et assez d'expérience pour discuter avec un adulte et décider par sa petite tête s'il peut désobéir ou pas selon la consigne de l'adulte. La seule chose qui peut protéger un enfant, c'est de dire, quel que soit ce que toi, adulte, tu me dis là, comme mon papa a dit, moi, je ne bouge pas. On est d'accord? Donc, la vraie obéissance au sens d'un père avec son enfant ou au sens de Dieu avec nous consiste à suivre bêtement ce que le père a dit en s'interdisant de l'analyser. On peut l'analyser pour le comprendre, pour mieux lui obéir, mais on ne doit jamais l'analyser en termes de est-ce qu'il dit vraiment bien ou est-ce que ce qu'il a dit était en fait mal. Parce que ça consiste à remettre en cause la sagesse de Dieu. Dès que vous commencez à essayer de voir par vous, même si ce que Dieu dit est vrai ou faux, vous venez de manger le fruit de l'arbre, de la connaissance par vous-même du bien ou du mal. Presque toujours, cela vous entraîne sur le chemin de vous éloigner de ce que Dieu a dit pour faire ce que Satan vous a insinué. Dieu dit que si vous imposez la main à une maladie guérie, Satan vous dit non, tu ne vois pas qu'il a des microbes, tu n'as pas vu son bilan de santé, tu n'as pas vu sa tension, tu n'as pas vu son rythme cardiaque. Satan vous dit, analyse avec ta tête. Regarde ce que tu dis n'est pas vrai. Il ne peut pas guérir simplement avec l'imposition des mains. Il est quand même malade, il a quand même un bilan de santé. Tu commences à dire, c'est vrai. Hein? Dès que tu commences à réfléchir à cette information, tu viens de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal au lieu d'obéir en disant, je m'en fous de ce que tu dis. Dieu a dit que si je pose la main, il guérit. Regardez Jésus même. Jésus, le Fils de Dieu, après 40 jours de jeûne dans le désert, 40 jours de jeûne, on ne peut pas dire qu'il n'avait pas l'onction. Satan attend que Jésus, Dieu, jeûne pendant 40 jours. Et à la fin des 40 jours, Satan ose se présenter devant Jésus lui-même et le tenter. Regardez bien. Les trois fois que Satan a tenté Jésus, il a tenté les trois fois avec des paroles de Dieu. Il est écrit que tu peux sauter et que les anges se porteront sur leurs ailes. Au pied de ta compte, aucune pierre. C'est la parole de Dieu. Mais pris hors de son contexte pour manipuler Jésus et le pousser à se suicider parce qu'il sait que Jésus est venu pour mourir. Donc il voulait manipuler Jésus pour dire que tu es venu pour mourir et Dieu va t'empêcher de mourir. Suicide-toi. Si Jésus se suicidait comme ça, il ne ferait jamais le sacrifice à la croix pour nous sauver. Jésus connaissait suffisamment la parole de Dieu pour dire oui, mais il est aussi écrit que tu ne mettras pas Dieu à l'épreuve. Quand Satan vient vous tenter, tu as prié pour avoir de l'argent, Satan vient dire, tu crois que c'est 6-20% par le temps qui court, il vient de tenter. Tu dois lui répondre, oui, mais il est aussi écrit que si je suis en Dieu, Dieu me bénira toujours. Il y avait la famine, personne ne semait. Dieu a demandé à Isaac de semer, lui il a récolté. Dieu est capable de faire des choses incroyables pour les siens. Quand vous ne connaissez pas suffisamment la parole de Dieu, Satan va vous citer la parole de Dieu pour vous faire éloigner de Dieu. Vous ne pouvez répliquer qu'en lui réappliquant la parole de Dieu avec discernement, la parole de Dieu avec vérité. Donc, je veux vous dire par là que le péché d'Adam et Ève, nous l'avons reçu génétiquement. Mais arrêtez, nous le faisons tous les jours. Chaque fois que nous trouvons que nos raisonnements d'école, nos raisonnements de science, nos logiques s'opposent à Dieu, et que nous trouvons ce que nous trouvons normal, plus logique que la parole de Dieu, nous sommes en train de nous opposer à Dieu, de désobéir à Dieu, parce que en cherchant à manger du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, nous nous perdons. Vous allez voir la Bible dit que quand ils ont mangé ce fruit, leurs intelligences se sont ouvertes et se sont venues. Pourquoi on parle d'intelligence ouverte pour parler d'un péché? Ce n'est pas l'intelligence en termes de capacité intellectuelle. C'est l'intelligence comme la volonté de se trouver par soi-même une réponse aux choses que Dieu a déjà tranchées. Papa te dit, tu ne sors pas avec les filles avant 18 ans. Tu dis, bon, je vais essayer un jour, alors que j'ai 12 ans, d'avoir une copine pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Tu veux voir si papa a vraiment raison que c'est mauvais. Il n'y a pas de débat à faire pour dire que tu es obéissant, tu as déjà désobéi. Le simple fait de vouloir goûter à ce qu'on t'a dit que ce n'est pas bon, de vouloir mettre à l'épreuve ce que ton père t'a dit, est déjà le péché. Il n'y a pas péché quand tu échoues. Il y a péché quand tu décides d'éprouver ce que ton père t'a dit. Prenez la Bible et vous verrez à chaque ligne le nombre de choses que Dieu a dit et qui sont le contraire de ce que nous faisons tous les jours. Dieu dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous croyons que la mort est au pouvoir du hasard. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lequel d'entre vous saisit cette parole et décide de vaincre la mort par la parole? C'est pas logique. Vous êtes sûr que c'est ça que Dieu voulait dire? Dès que tu commences à raisonner là, tu es en train de manger du fruit de l'arbre, de la création du bien et du mal. Dieu dit que quand tu parles, la vie revient. Tu n'es pas censé réfléchir, tu es censé parler. Mais regardez le mal que nous avons à obéir bêtement. Cela veut dire qu'au-delà du fait qu'ils ont péché, ils nous ont laissé un héritage que nous pouvons vaincre qu'en recevant Jésus et en nous renouvelant tous les jours pour ressembler de plus en plus à Jésus, jusqu'à ce que par la foi, nous perdions progressivement ce genre d'habitude pour être capable de fonctionner par la parole de Dieu. Est-ce que Dieu savait qu'ils allaient pécher? Dieu sait, le sait. Dieu sachant tout, on peut présumer que oui. Mais en même temps, vous savez, le problème c'est que c'est comme en mathématiques. Hein. Prévoir la destinée d'un objet est plus facile que prévoir la destinée d'un être vivant qui a le choix. Vous avez des enfants. Vous savez qu'en prenant le risque d'avoir des enfants, vous prenez le risque qu'ils aient 13 ans. Et que quand ils ont 13 ans, vous prenez le risque que si c'est une fille, elle allait prendre une grossesse. Mais en même temps, vous faites le pari que vous allez arriver en lui parlant à son cœur, à espérer qu'elle va faire le choix de vous obéir et qu'elle va devenir une fille qui va se marier peut-être à 25 ans vierge. D'accord? C'est possible qu'elle y arrive. Vous ferez tout pour. Après tout, elle a le choix. C'est ça qui en fait un homme. Mais en même temps, vous savez qu'il y a des chances, parfois les plus probables, qu'elle vous désobéisse et qu'elle meure. Ça ne vous empêche pas d'avoir envie d'avoir un enfant. Vous vous dites, je ferai tout pour qu'elle ne désobéisse pas. Mais si par hasard elle désobéissait, je ne vais pas la jeter. Elle va perdre des choses. Il y a des avantages de la vie qu'elle n'aurait pas. Il y a des gloires qu'elle aurait pu avoir qu'elle n'aura plus jamais. Mais on va essayer de voir comment on colmate les brèches. Je vais prendre l'enfant, elle va quand même étudier. Et puis un jour, elle n'aura peut-être pas le mari qu'elle veut. Mais je vais prier pour qu'elle ait quand même un mari. Et puis bon, après tout, elle peut quand même s'en sortir. Vous allez essayer en tant que père, si votre enfant prend un mauvais chemin, d'essayer de faire quand même les choses concourir à son bien pour restaurer plus ou moins ce qu'elle doit avoir. Mais il n'y a rien à faire pour que ce qu'on a semé ne le récolte pas. C'est pour ça que Paul nous dit que Dieu est grâce. Que là où il y a le péché, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais dès qu'il dit ça, il dit attention, que nul ne s'y trompe. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera forcément. Paul a semé la persécution des chrétiens. Il est venu à Dieu. Dieu l'a pardonné afin d'être le plus grand des apôtres. Mais il a récolté la persécution. Paul a été l'apôtre le plus persécuté. David a couché avec Bathsheba. Dieu lui a dit, c'est beau, je te pardonne, tu ne mourras pas. Mais ton enfant va coucher avec tes femmes en public, là où toi tu as couché avec la femme de ton cachette. C'est arrivé ou ce n'est pas arrivé. Pierre a renié Jésus trois fois en une nuit. Jésus a dû lui demander après trois fois, est-ce que tu m'aimes? Pour lui permettre d'effacer ça. Il y a des lois dans la vie. Jacob a escroqué son père et son frère. Il a été escroqué lui-même, lui a vendu deux femmes pendant 14 ans. Ce qu'on sème, on le récolte toujours. Mais ça n'empêche pas Dieu, au-delà de votre récolte, de faire reconcourir tout à votre bien pour qu'au finish, vous vous en sortiez quand même. Vous avez le choix de la trajectoire que prend votre vie, mais Dieu fera autant qu'il peut pour quand même vous bénir. On va faire la prière de clôture et on va aider ceux qui veulent bien donner leur vie à Jésus. Donc on va se lever. Ceux qui le veulent bien, comme, alors donner sa vie à Jésus, c'est rien de compliqué, hein, c'est simplement faire
Parce qu'il dit, si quelqu'un croit de son cœur, je pense que personne n'a pu entendre tout cela ne pas croire de son cœur, et confesse de sa bouche que Jésus est Seigneur, il est né de nouveau. Donc, nous allons, pour ceux qui le veulent, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit, que vous comprenez peut-être intellectuellement, mais que vous allez vivre par l'Esprit, une fois que vous aurez réinvité le Saint-Esprit à être avec vous. Nous allons donc demander à ceux qui se sentent appelés de me suivre pour que nous les aidions à donner leur vie à Jésus. Alors, vous allez répéter après moi. Excellent Père de gloire, nous te remercions pour cette soirée merveilleuse. Merci Seigneur parce qu'en dépit de nos péchés, tu nous as toujours aimés. Même quand nous étions au plus profond du monde, ton amour était toujours avec nous et nous a toujours protégés. Ce soir, tu nous invites Seigneur, nous te disons merci. Nous savons que nous ne sommes pas dignes de venir à toi, Seigneur. Mais nous savons aussi que tu as dit que quelle que soit la noirceur de nos péchés, tu étais capable de nous pardonner. C'est pour ça que nous invoquons maintenant le sang de Jésus pour pardonner tous nos péchés, Seigneur. Nous nous mettons sous la grâce de la croix pour te demander le pardon de tous nos péchés et la restauration de notre vie. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es notre Sauveur et notre Seigneur. Nous te donnons entièrement toute notre vie, Seigneur. Fais-en ce que tu veux. Nous invitons ton Saint-Esprit à revenir prendre sa place royale en nous, Seigneur. Prends le contrôle de notre vie, Seigneur. Vis à travers nous, Seigneur. Restaure-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Et fais de nous une source de bénédiction pour notre génération. Nous savons, Seigneur, que tu as pour chacun de nous une glorieuse destinée. Que nous avons manqué par notre éloignement de toi, Seigneur. Mais comme tu l'as promis, Seigneur, nous te prions maintenant de restaurer notre glorieuse destinée au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu nous as déjà acceptés. Merci Seigneur parce que notre vie ne sera plus jamais la même. Merci Seigneur parce que tu vis désormais en nous et que nous pouvons tout par toi. Merci Saint-Esprit. Je vais maintenant prier. Excellent Père de gloire, je veux te remercier. Merci Seigneur, il n'y a pas de mots assez forts. Il n'y aura jamais d'expression assez forte, assez puissante pour te témoigner notre gratitude Seigneur. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi, c'est toi qui nous as choisi, car alors que nous étions dans le péché, dans l'abomination, alors que nous étions même dans la moquerie à ta parole, à ta Seigneurie, Seigneur, tu nous aimais. Tu as toujours agi, tu as toujours frappé à notre porte, tu nous as offert différentes occasions. Aujourd'hui, Seigneur, tu as touché notre cœur. Nous nous sommes abandonnés à toi, nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous as convaincus, car tu as dit que nul ne peut dire que tu es Seigneur, si ce n'est toi qui l'en convainc. Merci, Seigneur, parce que tu nous as convaincus de confesser que tu es Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as aussi promis que ce que tu commences dans notre vie, tu l'achèveras forcément parce que tu n'es pas le Dieu des choses faites à moitié. Nous te remercions Seigneur parce que nous savons que tu prends en charge chacune des vies qui est ici. Nous savons Seigneur que tu t'installes en chacun d'entre eux et que ce n'est plus eux qui vivent mais que c'est toi qui vis en eux. Nous savons Seigneur que tu vas les restaurer. Nous savons que tu les as justifiés. Nous savons que tu vas les équiper. Nous savons que tu vas les émonder. Nous savons que tu vas les utiliser pour ta gloire dans ce pays et dans le monde au nom de Christ Jésus. Oui, je prie, Seigneur, pour que toute oppression sur leur vie soit maintenant brisée au nom de Christ Jésus. Je prie, Seigneur, pour que tout géant, tout esprit satanique, toute force démoniaque qui les avait emprisonnés, qui avait mis leur destinée en cage, soit maintenant vaincu et chassé au nom de Christ Jésus. Que tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité, tout esprit d'handicap, tout esprit de malédiction quelconque qui pèse sur la vie ici présente soit maintenant chassé au nom de Christ Jésus. Oui, Seigneur, tu as dit que tu es venu pour que tes brebis aient la vie en abondance. Je confesse qu'ils ont la vie en abondance au nom de Christ Jésus. Tu as dit, Seigneur, que tu mettras toujours la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Seigneur, ils sont nombreux à venir à toi aujourd'hui. Je confesse. Si tu es, Seigneur, si tu es fidèle comme toujours à ta parole, que désormais il y aura une différence entre leur vie jusqu'aujourd'hui et leur vie d'après aujourd'hui au nom de Christ Jésus. Oui, Seigneur, je confesse que pour leur prouver que tu es Seigneur, il y a des choses à partir de demain, des choses qu'ils n'arrivaient pas à faire, des choses qu'ils ont essayé en vain pendant des années. Démontre-leur, Seigneur, que tu es Seigneur en leur faisant ces choses-là dès demain au nom de Christ Jésus. Oui, Seigneur, donne-leur des signes vivants, donne-leur des signes tangibles, donne-leur des signes indiscutables de ta puissance. Oui, Seigneur, quand nous venons à toi, Satan nous éprouve. Satan nous met des doutes. Satan nous fait nous poser des questions. Nous fait nous demander si nous ne sommes pas perdus. Seigneur, sois celui qui répond à chacun d'entre eux. Sois celui qui guide chacun d'entre eux. Donne-leur de grandir dans la foi. Donne-leur de grandir dans la connaissance de ta parole. Et donne-nous surtout la force, la capacité de t'obéir. Merci Seigneur parce que tu as fait tout cela pour nous. Merci Seigneur parce que tu accompagnes chacun de nous dans ces maisons. Parce que ta paix demeure sur nous. Et que ta paix en nous impacte toutes les personnes que nous rencontrons. Merci Seigneur parce que ta paix demeure sur ce pays. Au nom de Christ Jésus, nous t'avons prié.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Pouigban. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le Club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Tandis que la solution